ici présent à cette table Madame le professeur Martine Daous, qui était recteur, je dis été puisqu'elle ne l'est plus, recteur de l'Académie de Poitiers. Comme vous le savez tous, vous l'avez vu sur le journal, Madame Daous a démissionné. Voilà, donc nous avons un nouveau recteur. Voilà. Donc je vais dire quelques mots à sa place. Sur un groupe de travail et un rapport qu'elle avait rendu à Madame le ministre de l'Éducation nationale, voilà, sur la mission soirée étudiante et week-end d'intégration, puisque Madame Daous avait travaillé depuis très longtemps sur ses problèmes d'alcool et avait écrit de très nombreux articles, et donc sa notoriété avait fait qu'elle avait été chargée d'effectuer cette mission. Alors, je vais faire une intervention assez courte. Hein. D'abord, quelques mots sur la position du problème et quelques chiffres rapides. Et puis ensuite, je vous lirai rapidement quelques conclusions. Voilà, ça sera une sorte d'introduction. Alors, plusieurs études, notamment des études de son rapport était de 2011, donc de 2009, montraient que qu'environ 6 jeunes de 17 ans sur 10, c'est-à-dire 60%, déclarent avoir déjà été ivres au cours de leur vie. Et plus de la moitié, 51%, au cours des 12 derniers mois. Et 1 sur 10 au moins 10 fois au cours de cette période. Voilà, ça, c'était les chiffres de 2009. Alors, vous verrez tout à l'heure, hein, donc nos amis sociologues ont fait une étude sur notre site de Poitiers, et ils vous expliqueront un petit peu ce qu'il en est actuellement. Alors, comme la consommation d'alcool, donc l'ivresse s'avère plutôt masculine. Le sexe ratio atteint 1,2 pour l'ivresse au cours de la vie. 1,2 donc au cours de la vie. 1,3 pour l'ivresse au cours de l'année. Et 2,7 pour l'ivresse régulière. Vous savez, donc ça, c'est une sorte de coefficient multiplicateur. Hein, voilà, hein, c'est-à-dire régulière, la définition, c'était au moins 10 épisodes au cours de l'année. Alors, encore deux, trois chiffres. Moins de la moitié des jeunes, donc 49%, dit avoir bu plus de 5 verres en au moins une occasion. Donc, plus de 5 verres en au moins une occasion au cours des 30 derniers jours. Et une minorité, 2,4%, déclarant l'avoir fait au moins 10 fois. Alors ce comportement d'alcoolisation, hein, qui est une alcoolisation brutale et sur une période de temps courte, hein, que les anglo-saxons appellent binge drinking, voilà, mais qu'on peut appeler autrement, désigne donc des alcoolisations ponctuelles, massives, rapides. Hein, c'est ça qui est important, hein, c'est ponctuel, massif, rapide, et clairement supérieur, bien sûr, à ce qu'on doit pouvoir boire habituellement. C'est plutôt très masculin, quand même, 57% de garçons. Et ce comportement, donc, on trouve 3,8% des garçons contre 0,9% des filles. Voilà, alors il existe bien d'autres chiffres, mais c'était juste pour vous donner un petit aperçu de la situation, en tout cas, telle qu'elle était en 2009. Alors, à l'issue de ce rapport, donc, qui a donné l'occasion de très nombreuses auditions, ils ont proposé à la fin quelques préconisations. Voilà. Comme ça, ça nous fera la transition avec la suite, savoir ou non qu'a-t-on fait de ces préconisations. Alors, différents argumentaires qui ont été mis en avant donc, ont permis de proposer finalement des actions à trois niveaux. Au niveau du respect de la loi, très court, au niveau de la responsabilité, la responsabilisation des organisateurs et troisièmement au niveau des établissements et de la réduction du risque. Alors au niveau du respect de la loi, toutes les auditions ont fait référence au détournement plus ou moins marqué du cadre juridique En ce qui concerne les open bars et la vente d'alcool au forfait, vous savez, donc la possibilité de boire sans limite. Le comité de pilotage donc, propose d'organiser des opérations dites de testing, entre guillemets, au cours des soirées, avec des sanctions en cas de non-respect de la loi. Les modalités d'organisation donc du testing peuvent s'inspirer de ce qui est fait dans le cadre de la discrimination. Les sanctions médiatisées et valorisées restent dissuasives et la MILT et les préfets peuvent être des partenaires pour ces actions. Voilà ce qui est proposé. Deuxième préconisation, c'est au niveau de la responsabilisation des organisateurs donc de soirées. Alors, le bilan de l'ensemble des auditions montre qu'un facteur majeur de protection contre le risque est la responsabilisation des acteurs. On va se pousser un petit peu. Pas de souci, entrez, monsieur Bonnefond. D'un facteur majeur de protection contre le risque est la responsabilisation donc des acteurs. Alors, à tous les niveaux, organisation étudiante et lieux festifs, voilà, très divers, ainsi que la transparence. Dans ce cas, nous proposons que chaque événement soit déclaré, bien sûr, à l'établissement, mais aussi à la mairie et ou à la préfecture du lieu d'organisation. La déclaration doit renseigner sur la personne responsable. Ça, c'est quelque chose qui était à l'époque un petit peu plus nouveau, qu'il l'est moins maintenant. Et les modalités de prévention mises en œuvre. Que fait-on? Est-ce qu'il y a une remise des clés de voiture? Est-ce qu'il y a un système d'alcotest? Des choses comme ça. Enfin, troisième niveau, et je terminerai là-dessus, au niveau des établissements et de la réduction du risque. Alors, le groupe s'est beaucoup inspiré d'une expérience qui avait été faite dans la région de Nancy-Metz, Metz, où ils étaient quand même assez en avance sur la réflexion. Alors, qu'en est-il? Eh bien, le bilan des ressources territoriales montre qu'il existe sur le périmètre des établissements un maillage de ressources humaines et financières pour mettre en place des actions de prévention et ou de sensibilisation. Alors, ce modèle, dit-on, est segmenté alors qu'il nécessite une approche plus intégrée autour de ce qu'ils appellent un projet d'établissement. Ce projet s'inscrit dans la rubrique vie étudiante et peut concerner le volet sanitaire de réduction des risques, mais aussi le volet pédagogique dans le cadre de la formation. Donc, on voit bien, mis en évidence, que ce type de manifestation doit être inscrit dans l'histoire de l'établissement, et dans même ce qu'ils appellent le projet d'établissement dans la rubrique vie étudiante. Voilà, Alors, la mise en cohérence, et c'est souligné, des différentes actions peut être préconisée. Le groupe de travail propose une formation spécifique des médecins universitaires dans le domaine de repérage, de prévention, d'intervention précoce auprès des étudiants en difficulté. Ça aussi, c'est un autre volet complémentaire qui n'est pas inintéressant. Alors, pour mettre en place ces actions de coordination, les directeurs d'établissement n'ont pas forcément de lisibilité sur les ressources environnementales, d'où l'importance qu'ils soient bien instruits de toutes leurs possibilités d'aide et d'accompagnement. Alors, le comité de pilotage se propose de rédiger un guide à destination des chefs d'établissement. Ce guide renseignera sur les pratiques possibles à mettre en action, sur les modalités de financement possibles et les partenaires existants. Une réunion plénière avec tous les directeurs et chefs d'établissement en présence de la ministre et d'un orateur spécialiste du champ, avec remise du guide, pourra aussi être l'occasion de communiquer sur cette problématique. Enfin, le groupe proposait de mettre en place un comité de suivi. Voilà. Donc voilà ces quelques mots introductifs qui ne résument pas l'ensemble et la richesse du rapport, mais qui donnent un tout petit peu les orientations qui étaient proposées donc à l'époque et qui ont été plus ou moins reprises ensuite. Alors maintenant, qu'en est-il des événements et de ce qui se passe à l'entrée à l'université. Y a-t-il ou non une évolution? Est-ce qu'il y a une possibilité de compréhension du comportement des étudiants à l'aune de l'éducation qu'ils ont pu avoir ou pas, sur leur consommation en particulier? Eh bien, je vais être très heureux d'écouter donc Ludovic Gosseau, donc l'Université de Poitiers, et puis Nicolas Palierne, doctorant hein, donc en sociologie, qui ont effectué donc ce travail avec donc une autre de leurs collègues Loïc Leminor. Voilà, ils vont vous présenter donc ce diaporama. Merci et je vous passe la parole.
Merci. Et Nathalie Gallet également. Nous sommes quatre à mener cette enquête, cette recherche. Avant de la présenter, je me présente brièvement, Ludovic Gosseau. Je suis sociologue, effectivement, comme disait Jean-Jacques. Et je travaille au département de sociologie, ici à Poitiers, notamment sur les questions d'alcool et d'alcoolisation, mais aussi d'alcoolisme. Je voulais, dans un premier temps, avant de présenter la recherche, ce sera Nicolas qui s'en occupera. Je voulais dire quelques mots sur le contexte social, le contexte politique, dans lequel finalement une recherche aujourd'hui sur l'alcoolisation des jeunes prend son sens, prend sa place. Alors, la question des consommations des jeunes est prise dans un ensemble d'enjeux que je ne vais pas détailler, mais je vais essayer d'en énumérer quelques-uns. Un ensemble d'enjeux qui rendent la question un peu brûlante. Tout le monde le sait, effectivement, la question du binge drinking, ça a été évoqué tout à l'heure par Jean-Jacques, défraie plus ou moins régulièrement la chronique. Alors peut-être je peux commencer par cet enjeu. Il y a un enjeu médiatique aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, en France notamment, dans les pays anglo-saxons avant, un enjeu médiatique, puisque le binge drinking, qu'on peut définir comme cette alcoolisation massive, ponctuelle, rapide, pour reprendre les termes évoqués tout à l'heure, le binge drinking a été donc en particulier investi par les médias comme phénomène populaire, comme phénomène à succès. Et tout se passe comme si il y a des étudiants et des chercheurs notamment qui ont essayé de retracer un petit peu historiquement la genèse de la manière dont les médias se sont emparés de ce phénomène. Il y a ce qu'on appelle une construction médiatique du phénomène. Ça ne veut pas dire, il ne s'agit pas de le nier, il ne s'agit pas de le banaliser ou de le minorer, mais il s'agit de prendre conscience qu'effectivement les médias sont l'un des. Sont au cœur, en tout cas, sans doute, des enjeux sur cette question brûlante de l'alcoolisation des jeunes. Alors, il y a d'autres enjeux, hein, bien sûr. Alors, l'autre gros enjeu, c'est celui de l'enjeu de santé publique, bien sûr. Donc, la question des risques, la question des consommations à risque, mais la question des prises de risques aussi sous alcoolisation, hein. La question des conséquences, la question de la prévention qui représente aujourd'hui, donc, la consommation des jeunes est devenue effectivement un problème public, un problème de santé publique majeur, hein, reconnu, c'est assez récent, hein. C'est important de savoir aussi que c'est assez récent, sinon le phénomène, en tout cas la construction du problème public comme tel. Alors, il y a bien sûr les enjeux commerciaux aussi, qui sont bien connus. On peut penser au lobby alcoolier, hein, bien sûr, qui rapidement dit, hein, bien sûr, le lobby alcoolier a fait et continue de faire des jeunes une cible privilégiée. Il y a des enjeux culturels, alors notamment la définition des bonnes et des mauvaises conduites, des bonnes manières de se conduire et des mauvaises manières de s'inconduire, des inconduites qui sont aussi définies culturellement. Il y a aussi la définition de la jeunesse comme période des expérimentations, comme période des excès aussi. Donc c'est à prendre en compte dans ces phénomènes. En tout cas, les anthropologues, sans doute plus que les sociologues, ont essayé de montrer que la jeunesse, si tant est qu'elle existe dans toutes les sociétés, est par définition presque une période de prise de risque, une période d'expérimentation des limites. Enjeux culturels, donc enjeux politiques aussi. Jeunesse en danger, jeunesse dangereuse. Il y a tout un ensemble d'approches, de discours, de débats qui oscillent souvent entre ces deux pôles, hein, c'est-à-dire jeunesse en danger, d'un côté, jeunesse qu'il faudrait secourir, et jeunesse dangereuse, le danger que représente notamment cette jeunesse aux prises ou en prise, sous l'emprise de l'alcool. Enjeux politiques, notamment aussi de contrôle social. Les sociologues étudient beaucoup le contrôle social, les anthropologues aussi et d'autres disciplines dans les sciences sociales, les sciences humaines. Et le contrôle social est très présent sur ces questions. Qu'est-ce que la jeunesse, pardon, qu'est-ce que la société fait de sa jeunesse et comment elle l'appréhende, comment elle la pense, comment elle la gère éventuellement, comment elle essaye de réguler ses comportements. Ces différents enjeux, il y en a d'autres, hein, on pourrait continuer la liste. Là, c'était juste pour évoquer le fait qu'on est effectivement là sur un terrain qui est particulièrement sensible et qui fait qu'il est sans doute extrêmement difficile dans ce contexte d'avoir un regard distancié, un regard neutre, un regard éclairant en tout cas. J'allais dire, je l'ai noté, c'est-à-dire scientifique. C'est toujours un petit peu l'ambition des sociologues et des anthropologues et des chercheurs en sciences sociales, en sciences humaines, d'être scientifique ou de viser la scientificité. Mais on emploie toujours ce terme avec des guillemets, tellement on a du mal à être reconnu comme tel. Parfois, on a du mal aussi à atteindre les exigences qui sont celles d'un savoir, d'une connaissance scientifique. Donc, il est extrêmement difficile d'avoir un regard distancié, neutre, éclairant, d'autant plus que la question... où le problème public, tel qu'il est aujourd'hui clairement reconnu, ce problème, donc, je viens de le dire, il est à la fois, semble-t-il, avéré. Hein, il y a un problème majeur aujourd'hui de santé publique concernant les alcoolisations des jeunes. On a l'impression que la réponse est déjà donnée. On a l'impression aussi, peut-être surtout à travers les médias, que ce problème est nouveau. C'est pour ça qu'on ne sait pas comment l'appeler et qu'on lui a donné un terme étranger. Binge drinking, c'est un problème qui nous vient d'outre-Manche ou d'outre-Atlantique. Ce sont les Anglais, ce sont les Américains, ce sont les pays du Nord qui, quelque part, nous envahissent à travers des pratiques qui nous seraient totalement inconnues ou en tout cas étrangères, justement. Hein. Donc, avéré, nouveau, alarmant. Aujourd'hui, il y a un consensus assez fort sur cette idée qu'il y aurait... il faut intervenir massivement pour enrayer ce fléau. Il a été beaucoup question de fléau dans la presse, hein, notamment. C'est un terme à la fois ancien et fort, hein. Fléau. Donc, ce problème semble avéré, nouveau, alarmant. Et par ailleurs, la solution semble à la fois connue et simple. Il faut que les jeunes boivent moins, et surtout moins vite, en tout cas, par rapport au binge drinking, cette alcoolisation rapide, massive, etc. Donc, boivent moins et surtout moins vite. Et il faut, pour cela, les informer, les alerter. Il faut aussi informer, alerter, alarmer la famille, les institutions, comme le rapport de Martine Daoust le suggérait. Il y a néanmoins quelques voix qui essayent de se faire entendre et qui essaye de dire que le phénomène n'est peut-être pas si nouveau que ça, qui essaye de dire aussi que ce phénomène ne touche pas, et loin de là, la majorité. Les chiffres rapportés par Martine Daoust suggèrent 3,8% des garçons. Je ne veux pas dire que c'est négligeable, je veux dire qu'il reste encore 96,2%, si je ne me trompe pas, de garçons qui ne déclarent pas, puisqu'on parle de déclaration, qui ne déclarent pas ce genre de consommation massive, etc., rapide, et 0,9% des filles, moins d'1% des filles. Ce qui est clair, en tout cas, c'est qu'il y a une sensibilité ou une sensibilisation nouvelle des adultes, de la santé publique, du corps médical, de la presse, à l'égard de la consommation des jeunes. C'est sans doute une bonne chose, je ne suis pas là pour le juger, hein. La question, c'est peut-être aussi, ou c'est peut-être cependant, souci à l'égard des autres, souci à l'égard des jeunes, point d'interrogation, durcissement du contrôle social, point d'interrogation, ou les deux, c'est pour leur propre bien qu'il faut contrôler les jeunes, point d'interrogation toujours. En tout cas, c'est dans ce cadre que nous avons lancé, il y a à peine une année, hein, une recherche sur la consommation des jeunes, en l'occurrence des étudiants, sur leur consommation, bien sûr, sur le cadre de leur consommation, sur l'histoire, la genèse de leur consommation et sur les facteurs de risque, mais aussi les facteurs de protection. Nicolas Pallien va détailler tout ça. L'une, ou plutôt la question centrale que nous essayons de poser, au-delà de la question de l'ampleur de la consommation, c'est de voir quels sont les facteurs de risque et de protection qui interviennent et qui expliquent que la grande majorité aussi des jeunes aujourd'hui ne semblent pas se livrer à ces comportements alarmants. Voilà, je passe la parole à Nicolas.
Donc, bonsoir. Je vais vous présenter rapidement les premières données. Comme Ludovic l'a rappelé, l'enquête est en cours. Les résultats finaux n'arriveront qu'en 2013. Donc l'enquête qui s'intitule donc, l'entrée à l'université, permanence et évolution de l'effet des styles éducatifs parentaux sur la consommation d'alcool et de cannabis des étudiants. Donc vous le comprendrez ici, la problématique est beaucoup plus large puisqu'elle inclut à la fois la consommation d'alcool et de cannabis à travers un questionnaire qu'on a diffusé auprès des étudiants, mais on inclut également les autres consommations de produits psychotropes auprès des enquêtés à travers à travers une série d'entretiens. Pour le cadre général, alors je ne sais pas si ça passe. Voilà. Alors pour le cadre général de l'enquête, donc c'est une enquête qui est subventionnée à la fois par la MILT, l'INCA, l'Université Paris 13 et un cofinancement de l'IREB. La thématique générale était d'essayer de mesurer l'importance de l'environnement familial dans l'expérimentation, voire la mise en place d'une consommation régulière ou à risque d'alcool et ou de cannabis chez les adolescents, ici sur la population des étudiants de Poitiers. Le constat était que, en tout cas l'hypothèse, était que l'influence des pairs, autrement dit leurs camarades, les autres étudiants, mais aussi les pairs aussi bien... les pairs qu'ils avaient pu connaître au collège ou au lycée, n'expliquaient pas à elles seules les modes de consommation des jeunes, ni leur prise de risque, puisque cette influence des pairs pouvait être elle-même modulée eh bien, par l'éducation parentale reçue. D'où une idée assez simple à travers la littérature, eh bien, c'est que les parents qui surveillent activement les usages de leur enfant et qui transmettent de façon convaincante des règles familiales régissant la consommation d'alcool sont moins susceptibles d'avoir des enfants qui boivent. Au niveau de notre méthodologie, donc il y a eu deux temps. Dans un premier temps, on a diffusé un questionnaire donc sur les adresses électroniques des étudiants de Poitiers, avec tout un ensemble de variables sociodémographiques, telles que la filière d'études, plusieurs tests, donc le test API, qui essayait de mesurer le style éducatif reçu par l'étudiant, le test CAST, qui renvoie ici aux consommations de cannabis, le test audit, dont on va plus particulièrement parler ici, qui évalue à travers un test de fréquence et de quantité d'alcool consommé, et également dans ce questionnaire, les fréquences et le type de sortie des étudiants. Parmi notre population, on a pu recueillir donc 2364 questionnaires, ce qui représente donc un peu plus de 10% des étudiants de Poitiers, en tout cas ceux qui étaient inscrits l'année dernière, soit 2011-2012. Notre échantillon donc sur ces 2364 est surreprésenté au niveau des femmes, puisque les étudiantes dans notre échantillon représentent 65%, enfin un petit peu plus de 65%, presque 66%, alors qu'elles ne sont que 55% dans la population des étudiants de Poitiers. Donc on envisage, à partir de ce premier constat, de redresser notre échantillon, en tout cas à partir de la variable sexe et de la filière d'études. Au niveau de la répartition, au niveau des usages d'alcool. Donc ici, on a regroupé quatre formes d'usage, à savoir les non-consommateurs, les consommateurs sans risque, les consommateurs avec risque ponctuel et les consommateurs à risque chronique ou de dépendance. Ici, ces différents usages ou mésusages sont définis à partir des normes de l'OMS, qui sont donc de 3 verres par jour pour les hommes et de 2 verres par jour pour les femmes, avec également une prise en compte du rapport qui a été souligné plus de 5 verres en une seule occasion. Donc on voit ici à travers notre population qu'on retrouve donc 14% qui se déclarent non consommateurs, 43% consommateurs sans risque, 33% consommateurs avec risque ponctuel et 10% avec un risque chronique et ou de dépendance. Donc à partir de cette répartition, on voit effectivement que les usages problématiques concernent 43% de notre échantillon. Si on le compare à travers les données du baromètre santé à l'échelle nationale, On voit ici que notre population, on retrouve davantage de moindres consommateurs. Alors, on a un petit peu moins de non-consommateurs, on avait 14%. Mais en tout cas, on retrouve beaucoup moins de consommateurs avec des usages à risque, qu'ils soient ponctuels ou chroniques. On voit également, à travers cette répartition de l'usage et du mésusage, l'importance eh bien, du genre, puisque selon le fait que l'on soit un garçon ou une fille, eh bien, là aussi, le rapport au risque va différer. Donc vous avez ici en pourcentage avec les effectifs réels qui sont indiqués sur ces deux colonnes. Donc vous allez retrouver en plus foncé, je ne sais pas si on revoit bien les indicateurs, alors ça n'apparaît pas sur l'écran. Vous avez tout en bas, donc la partie un peu plus foncée, les non-consommateurs. Oui, c'est indiqué. Les consommateurs sans risque, excusez-moi. Donc on voit en tout cas que la part des consommateurs sans risque est beaucoup moindre chez les garçons, puisqu'elle représente 42%. Alors que chez les étudiantes, cette part est beaucoup plus importante puisqu'elle représente presque des deux tiers des étudiantes. Donc on voit ici que le rapport au risque à travers la consommation d'alcool eh bien, va différer selon le sexe de nos individus. Si on s'attache également à la variation de ces différents usages à partir des années d'études, là aussi, on va avoir un effet qui va différer selon le fait que l'on soit étudiant ou étudiante. Chez les étudiants, on va voir ici, toujours avec ces quatre catégories, hein, on va avoir en tout cas un niveau de variation qui est moindre chez les garçons. Pardon, ici, on est chez les filles. On va avoir un effet beaucoup plus important de la variable année d'études chez les filles que chez les garçons, puisqu'on va se rendre compte que d'une manière générale, plus le niveau d'études va augmenter et plus le nombre de non-consommatrices va diminuer, ainsi que le nombre de consommatrices à risque, puisqu'elles vont représenter au niveau doctorat un petit peu plus du quart des étudiantes avec une consommation à risque ponctuel. Les étudiantes à risque chronique ou de dépendance vont disparaître et la part des abstinentes également va se réduire. On voit en fait qu'on va avoir un pic au niveau des L2, au niveau des usages à risque, mais ces usages-là vont tendre à décroître à partir de la L3 pour les étudiantes. Ce qui fait qu'on a en tout cas pour une grosse majorité, des consommatrices sans risque pour les étudiantes. Si on s'attache maintenant au niveau des étudiants, ici l'effet est moins lisible, avec quelques variations également, c'est-à-dire que cette diminution liée au niveau de l'année d'études eh bien, va apparaître plutôt à partir du M2, et non pas dès la L2 ou la L3, et une petite variation également au niveau des non-consommateurs, puisque ceux-ci vont tendre à décroître jusqu'à la L3, puis à réaugmenter à partir du master. On peut néanmoins constater eh bien, que la part des consommations à risque reste importante chez les étudiants, puisque même au niveau du doctorat, on est à près de la moitié des étudiants qui déclarent encore avoir des consommations à risque, qu'ils soient ponctuels, chronique ou de dépendance. Pour conclure simplement sur deux points, on peut donc rappeler ici eh bien, l'importance des différences de genre en matière de consommation de produits psychotropes. Donc ici, la présentation se limitait à l'alcool, mais on va constater la même chose pour les autres produits. Et puis également, l'importance de prendre en compte eh bien, la carrière des consommateurs, qui semble eh bien, être modulé et qui va tendre à une certaine modération à la fois avec l'entrée dans la vie adulte et en tout cas avec l'élévation du niveau de diplôme. Donc ça, c'était en tout cas ce qu'on pouvait dire rapidement à partir des questionnaires. Et on a également lancé eh bien, un recueil d'entretiens. Donc on va réaliser 60 entretiens en tout, mais cette passation est actuellement en cours. Voilà en tout cas ce qu'on peut dire sur les premiers résultats de cette enquête. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Donc, vous avez la chance d'avoir en primeur les premiers résultats jamais présentés. Donc, c'est une première mondiale. Est-ce que vous vous en rendez compte ? Voilà. Donc, jamais vu, jamais entendu. Voilà. Donc, nous attendons la suite hein, et c'est un à épisode, hein, au fur et à mesure de l'évolution, de dépouillement et aussi des entretiens semi-directifs. Alors, si vous voulez poser une ou deux questions immédiatement, c'est tout à fait possible. Et après, on fera une discussion de toute façon générale à l'issue. Mais bon, vous avez une question de détail ou de précision par rapport aux chiffres, par rapport, voilà, madame.
Oui, alors en début d'intervention, Ludovic Gosseau, vous avez parlé de, entre guillemets, l'héritage familial, de ce que les familles donnaient comme directive à leurs enfants. Est-ce que ça transparaît dans le questionnaire là ? Est-ce que, voilà, je ne sais pas, le niveau de social professionnel ou alors la qualité du cocon familial a un rôle à jouer dans la consommation de l'alcool chez les jeunes ?
Oui. Alors, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut employer par rapport à l'enquête, enfin, la recherche qu'on mène sur le style éducatif parental. Mais à partir du moment où, effectivement, on étudie le lien qu'il peut y avoir entre un style éducatif, comme l'a présenté Nicolas, enfin, brièvement, bien sûr, hein, développé, enfin, détaillé en quatre styles différents. Le style, je ne vais pas me les rappeler par cœur, je suppose, mais le style vigilant, le style autoritaire, le style indulgent, et le style négligent. Alors, effectivement, on a... Alors, bien sûr, là, on les appelle comme ça. Il y a des items qui sont très précis, des questions très précises qui sont posées pour avoir des indicateurs et mesurer le plus précisément possible la part, effectivement, de sollicitude, donc de soutien, peut-être ce que vous appeliez le cocon un peu parental, d'un côté. Et puis, de l'autre côté, la question de la règle, la question de la loi, en tout cas de l'inculcation, j'allais dire, c'est un peu fort, de la manière dont les parents, eh bien, effectivement, donnent des limites, donnent des interdits, ou en tout cas, donnent des règles. Voilà. C'est surtout la règle qui est importante là dans ce test, je crois. Donc là, on a la famille, en tout cas, on a la famille. Alors, c'est difficile de parler d'héritage familial dans ce cas-là, puisqu'il s'agit d'étudier, de mesurer le style éducatif parental tel qu'il est perçu par les jeunes. Donc ce n'est pas une mesure objective de l'héritage familial, c'est, on pourrait dire, l'héritage familial tel qu'il est perçu, tel qu'il est perçu par les jeunes. L'héritage familial, là en l'occurrence, en termes exclusivement de ce que je disais, hein, sollicitude d'un côté, le contrôle de l'autre. Ce sont les deux grandes dimensions qui sont utilisées dans ce test. Donc, il ne s'agit pas d'étudier. Alors, qui comprennent bien sûr les échanges qu'il y a dans la famille, la manière dont les parents sont ou non au courant de ce que font les jeunes, de leur sortie, de avec qui ils sortent, etc. Qui comprend aussi des questions sur le suivi des études, etc. Donc, c'est quand même assez vaste. Ça donne une idée du type d'interaction qui a dû avoir lieu au sein de la famille, puisque là, c'est rétrospectif dans notre étude. On demandait aux jeunes de se rappeler ce qu'il en était quand ils avaient 17 ans, pour voir si, justement, l'éducation telle qu'elle pouvait avoir lieu jusqu'à cette période-là pouvait jouer sur les consommations ultérieures, en l'occurrence, une fois étudiant. Donc, héritage familial, certes, mais voilà, il ne s'agit pas d'une mesure objective de l'héritage familial qui comprend tellement de variables et qui est étudié en sociologie dans tous ces aspects, dans toutes ces dimensions. Mais on peut dire que quelque part, on entre bien sûr dans cette entrée, c'est sûr. Nicolas, peut-être.
Juste deux petits points, effectivement. On ne s'est pas encore attardé à dresser un lien entre ce style éducatif familial et puis les consommations, puisqu'on vient de recueillir encore les données. Et en tout cas, à l'heure actuelle, il faut à la fois redresser la population, comme j'expliquais tout à l'heure, et également reconstruire ce CEP, qui est une mesure certes relative, comme le disait Ludovic, puisqu'il reste perçu par les étudiants, mais aussi qui est relative par rapport à notre population. Donc actuellement, il faut encore retravailler un petit peu tous ces indicateurs-là avant de pouvoir, en tout cas, afficher clairement des résultats qui seront les résultats de l'enquête. Mais effectivement, en tout cas, par rapport à nos premiers résultats, on voit qu'il y a quand même une importance de ce style-là et de la consommation.
Très bien, merci beaucoup. On rediscutera bien évidemment de tout ceci tout à l'heure. Donc, Je propose de passer la parole au représentant de la mairie de Poitiers, monsieur Jean-Claude Bonnefond. Voilà, conseiller municipal, délégué à la prévention de la délinquance et à la tranquillité publique. Alors, j'ai tout dit, hein. J'ai tout dit. Voilà, donc il va prendre le micro. Va nous donner son point de vue, enfin, ou le point de vue, je dirais, de la mairie et de l'ensemble de l'équipe, peut-être. Voilà, il va nous expliquer un petit peu ce qu'il en pense. Voilà, et on échangera avec lui ultérieurement. Merci, monsieur Bonnefond. Vous avez la parole.
Merci déjà de cette initiative et d'avoir invité la collectivité locale. Je vais le prendre à la main, c'est plus facile. Merci. Voilà. Moi, je suis très preneur, et nous sommes très preneurs, de toutes les études qui peuvent être faites sur le sujet et qui peuvent aussi aider les élus à prendre des décisions et à mieux discerner ces phénomènes-là. Donc, je pense que l'étude que vous avez commencée, qui n'est pas terminée, ne peut qu'intéresser la collectivité locale, et donc je suis preneur de suite. Quant à l'étude de Madame Daoust, je vais être un peu sévère, hein, mais ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas la langue de bois. Cette dame a été 2 ans à Poitiers, peut-être un peu plus, je ne sais pas, mais à aucun moment elle n'a pris le réflexe d'inviter les élus locaux à échanger sur son rapport et à présenter celui-ci de façon publique. Mais pour moi, Madame Daoust appartient au passé, puisqu'elle a démissionné de ses fonctions. Donc, regardons l'avenir. Voilà, par rapport à ce rapport. Alors, si je dis ça, c'est parce que nous avons été demandeurs d'échanges avec elle, et sans réponse de sa part, puisque lorsqu'on a quand même un haut fonctionnaire qui contribue à faire un exposé sur un sujet qui peut intéresser les élus locaux, à un moment donné, si ceux-ci demandent d'être consultés, il serait de bon usage qu'on puisse échanger. Mais bon, regardons l'avenir. Voilà, mais sur ce rapport, je suis un petit peu énervé de la façon dont il est mis en avant et lorsque l'auteur a été présent à Poitiers et n'a jamais présenté celui-ci aux acteurs locaux. Mais c'est peut-être une autre conception de la haute fonction publique que celle-ci exerçait. Mais pour revenir au sujet, aujourd'hui, comment on aborde ces questions-là ? Ces problèmes de l'alcool, est-ce que c'est un phénomène nouveau ? La question a été posée tout à l'heure. Je ne pense pas que toutes les collectivités locales ont eu à être alertées sur des phénomènes d'alcoolisme. Alors, et de quelle population on parle ? Parce que là, on est sur la population jeune, mais on pourrait parler aussi des populations adultes. Quand je vois dans mes échanges avec d'autres institutions, je pense par exemple à la police nationale ou au Centre d'information des droits des femmes et des familles, pour prendre deux institutions très différentes l'une de l'autre, les violences conjugales, dans les violences conjugales, dans les causes des violences conjugales, on retrouve parfois le phénomène de l'alcoolisme. Et donc ce phénomène-là, il est aussi à prendre en considération du côté de la population adulte. Mais peut-être que les projecteurs se tournent plus sur la population jeune. Et là aussi, de quels jeunes on parle ? Est-ce que ce sont les jeunes qui, sur la place de Provence, entre 25 et 30 ans, sont sans activité professionnelle, sans qualification professionnelle, et qui errent sur cette place dans une certaine oisiveté, qui n'ont pas de perspective de société, etc. Et qui, quelque part, troublent, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, un peu les habitants, interrogent, bousculent, etc. Jusqu'où sommes-nous tolérants par rapport à l'autre qui peut être différent ou en crise à un moment donné ? C'est aussi une question qu'il faut que nous nous posons. Et puis, il y a le public jeune. Alors là, dans le public jeune, est-ce que c'est le public jeune des collégiens, lycéens ? Là, moi, je fais confiance à la communauté éducative. Il y a ce qu'on appelle des comités d'éducation à la santé, à la citoyenneté au sein des établissements scolaires. C'est prévu dans les textes. Après, comment ceux-ci mettent en œuvre les questions de santé? Mais souvent, en tant qu'élus locaux, nous avons été sollicités par des collèges, lycées, pour participer à ces instances, pour partager avec la communauté éducative enseignante sur ces questions-là. Mais c'est pas là que les projecteurs se mettent. Les projecteurs, ils sont plus sur la voie publique et notamment sur une tranche de population qui est sur cette voie publique ou qui est dans notre ville, qui est la population, j'allais dire, qui poursuit des études, population étudiante. Alors, je suis très prudent parce que j'ai horreur des clichés. On voudrait cataloguer une population en disant c'est elle qui est la cause, etc. Donc, faisons attention à ce que l'on dit sur ce sujet-là. Alors, moi, je me retrouve très, très bien dans les propos qui ont été tenus tout à l'heure par M. Guessot sur les différents enjeux que l'on retrouve, notamment l'enjeu médiatique. Il suffit de quelques riverains, quelques citoyens qui envoient une pétition, bien sûr, au maire, au préfet, à la police, au procureur. C'est le circuit classique des lettres, au moins les trois premiers. Et puis la presse, parce qu'aujourd'hui, quand on s'exprime, on choisit bien sûr la presse. Et on peut se trouver, et c'est arrivé, un jour, un matin, dans la presse locale, on voit dans telle rue, des habitants se plaignent de la vie des étudiants, etc. Donc il y a un enjeu médiatique quand même qui est très très fort autour de ces questions d'alcool. Moi, je parlerai plus, c'est souvent aussi, vous avez eu l'occasion d'entendre Alain Claes sur le sujet, nous parlerions davantage d'enjeux de santé publique et d'enjeux du vivre ensemble sur un territoire. Enjeux de santé publique parce que lorsque nous échangeons avec les riverains ou même les gestionnaires d'établissements d'alcool, qui vendent de l'alcool, les établissements de nuit, il y a des jeunes garçons, des jeunes filles. C'est le phénomène du binge drinking. Alors là aussi, c'est pas un phénomène. Sortons un peu de notre regard poitevin ou de notre regard franco-français, élargissons aussi notre regard, parce que ces questions-là, comme il a été dit, ne sont pas des questions spécifiques au territoire français. Il se trouve que je me retrouve dans un réseau national de 130 villes sur les questions de prévention depuis un certain nombre d'années, et ce réseau a aussi une dimension européenne. Ces questions-là, elles sont abordées dans toutes les grandes villes, les villes où il y a une population jeune. Notre richesse, Poitiers, moi j'ai toujours dit que notre première richesse, c'est sa population jeune, c'est sa population étudiante. Donc, valorisons cette richesse plutôt que de l'enfoncer avec des caricatures ou des images réductrices sur un certain nombre de comportements. Donc, ces questions-là, elles sont vraiment prégnante aujourd'hui dans toutes les grandes villes. C'est pas un phénomène spécialement poitevin que nous partageons ce soir. Quand je parlais d'enjeux de citoyenneté aussi, c'est parce que aujourd'hui, comment on est capable de se parler, de faire de la médiation, parce que, alors je fais gaffe parce que le mot médiation est employé à toutes les sauces aujourd'hui, mais sans avoir forcément besoin de recourir à la loi, à la force publique, pour se rassurer quand on voit des comportements abusifs d'alcool, etc. Alors, moi, je ne me satisfais pas forcément de la prise d'arrêtés municipaux qui rappellent des interdits, etc. Une société qui ne vivrait que d'interdits serait une société qui serait vouée à l'échec. Donc, moi, je travaillerai plutôt sur le volet éducatif, sur le volet prévention. Mais de plus en plus, dès qu'il y a un problème, et ces questions d'alcool, recours à la collectivité locale. Mais que fait la mairie, etc. Je citerai un couple arrivant sur Poitiers de Grande-Bretagne, s'installant pas loin de la Grand-Rue, disant, mais c'est pas possible. Mais vous laissez s'installer des bars, etc. Mais vous donnez pas, vous n'avez pas le pouvoir d'interdire d'installer des bars dans telle rue. Mais vous avez vu la concentration d'établissements qui vendent de l'alcool, etc. Mais c'est quoi cette, c'est quoi ce type de comportement, c'est quoi ce type de société que l'on veut. On veut une ville aseptisée, on veut qu'une ville. Moi, je dis toujours, voilà, si les étudiants dérangent par l'aspect festif et par l'alcool, vous imaginez. Voudriez peut-être qu'on transporte à Brigueuil-le-Chône, alors j'ai rien contre Brigueuil-le-Chône, j'espère pas que je choque des gens dans la salle, ou dans la plus petite commune de la Vienne qui s'appelle Saint-Radegonde, les établissements de fête et les établissements festifs. Il y a aussi, je crois, un savoir-être ensemble qui a besoin peut-être d'être réaffirmé. Alors depuis 2008, on a mis en place ce qu'on appelle une commission de la vie nocturne, parce que ces phénomènes-là, en tant que collectivité locale, c'est surtout la nuit qu'on les pressent. Dans cette commission, il y a des établissements, des gestionnaires d'établissements de nuit, les représentants du monde du commerce, etc., les chambres consulaires, la collectivité locale, ma collègue qui est adjointe à la vie étudiante. Et puis, bien sûr, on invite aussi la préfecture et le service de sécurité publique. Mais moi, ce n'est pas pour traiter cette question-là sous un enjeu de sécurité publique en premier. Pour nous, en tous les cas, c'est pour comment rendre la vie nocturne sur Poitiers accessible à tous et la plus paisible pour tous. En traitant ou en donnant tous les moyens de prévention pour que les consommations d'alcool ne soient pas des consommations qui gênent, qui provoquent aussi des... On regarde, et le maire là-dessus est hyper attentif, on regarde semaine par semaine le nombre de jeunes qui sont conduits aux urgences au CHU de Poitiers. Alors certains penseraient que ça augmente tous les jours, etc. Là aussi, arrêtons de colporter des images fausses ou négatives sur le sujet, sauf si depuis un mois, on me dit que tous les jours, c'est catastrophique, etc. Mais je ne le crois pas. On va lancer une opération de prévention sur Poitiers, qu'on a travaillé avec la médecine préventive universitaire, avec la prévention les éducateurs de la prévention spécialisée, Equinox, qui est une association de prévention sur l'ensemble des toxicomanies qui agit dans les milieux festifs, et avec des établissements de nuit, de médiateurs un peu. Alors on n'a pas encore trouvé le nom, mais un peu de médiateurs. Et puis la MILT, puisqu'on a cité la MILT qui contribue aussi à l'opération. On va travailler. Et l'université, hein, bien sûr, on a impliqué des associations d'étudiants. C'est très difficile d'avoir une représentation étudiante sur ces questions-là, parce que les étudiants, ils bougent, et c'est normal, etc. Mais moi, je tiens beaucoup à la présence des étudiants à nos côtés, et on apprend beaucoup de leur présence dans ces milieux. On peut une opération un peu de prévention, sensibilisation, de 20h jusqu'à 2h du matin. On ne va pas faire ça tous les soirs, mais à Poitiers, le phénomène alcool, entre guillemets, hein, tous les mots sont employés avec prudence, c'est le jeudi soir, c'est la fameuse soirée nuit étudiante. Moi, c'est le vendredi matin qu'on m'alerte le plus sur ces questions-là. Ce n'est pas les autres jours de la semaine, un peu le lundi à propos du samedi, mais c'est souvent la fameuse nuit du jeudi. On va lancer un peu cette opération, à l'instar de ce qui se fait à Rennes, ce qui se fait dans d'autres villes, à Nantes, etc. Un peu cet aspect de travail sur la prévention à la consommation. Moi, je voudrais qu'on sorte d'image des collectivités qu'on voudrait voir uniquement dans un enjeu de contrôle social, on a parlé de durcissement du contrôle social tout à l'heure, on serait là uniquement pour voilà, pour contrôler un peu la population étudiante, si j'allais jusque-là. Au contraire, c'est comment développer le vivre ensemble autour de l'aspect festif, etc. Et bon, cet aspect festif, voilà, il y a des établissements connus à Poitiers qui sont connus depuis X années. Je ne citerai pas, comme ça je ne vais pas faire de gaffe. Voilà, où il y a toujours eu autour de ces établissements des moments festifs, etc. Donc ils ont été plus ou moins acceptés par les populations qui se sont succédées, etc. Mais aujourd'hui, ce que je ressens dans ma fonction, que je n'aurais pas pensé, c'est que dès qu'il y a un problème, ou dès qu'on sent que, voilà, autour de ce phénomène de consommation d'alcool, on va tout de suite, j'allais dire, au procès, hein, sans voilà, partager ensemble les enjeux pour essayer d'apporter des instances de régulation, etc. Et puis, je termine là-dessus, un enjeu commercial aussi. Ça a été un des termes qui a été abordé tout à l'heure. Moi, je regrette, mais les plus grosses consommations d'alcool, il y a une étude qui a été faite en 2010 que j'ai apportée sur les lieux où les étudiants se retrouvaient, parce que les citoyens pénalisent montrent du doigt très facilement les gestionnaires d'établissements. Là aussi, il faut faire attention aux images que l'on porte, parce que quand on regarde, alors j'ai amené le chiffre, la moitié, les étudiants, les moments festifs, 83% des moments festifs se passent chez des amis. Et quand on regarde l'utilisation, les lieux où se retrouvent les étudiants, sur les bars de la place du marché, la rue du Chaudron d'Or, la Grande Rue, qui sont les lieux emblématiques, si on veut, c'est pas forcément. Bon, il y a du monde. Si on prend la rue Chaudron d'Or, c'est une toute petite rue, elle est très concentrée, il y a quatre établissements. Donc, faut faire attention aux effets aussi de masse. Mais la plupart des lieux festifs se passent à domicile et on va chercher l'alcool dans les grandes surfaces, dans les lieux où c'est moins cher, parce qu'il faut prendre en compte aussi le panier d'un étudiant aujourd'hui, le pouvoir d'achat d'un étudiant, il a évolué, et puis il n'est pas à la hausse, il est à la baisse. Notre difficulté, c'est de travailler, alors je ne pointe pas non plus, mais à travailler un peu sur ces questions de responsabilisation avec les vendeurs d'alcool, etc., et notamment les grandes surfaces, etc. Parce que c'est là qu'on achète le plus de consommation. C'est pas... D'ailleurs, quand il y a des fêtes, les gens arrivent avec le sac à dos, avec les bouteilles dedans. Ils consomment. Voilà. Donc, c'est aussi un enjeu commercial qui paraît important. Voilà, moi, j'ai déjà été trop long, mais j'ai plein de défauts dans celui d'être bavard.
C'est bien, vous êtes arrêté, sinon j'allais vous arrêter. Alors... Est-ce que vous avez une question ? Non, alors on va passer la parole. Vous l'aurez peut-être tout à l'heure. Voilà, oui, voilà. Oui. Alors, au docteur Olivier Candel, qui est donc médecin généraliste, alcoologue à Poitiers.
Il est logique de faire passer le soin avant la prévention ? C'est une drôle. Non ?
Voilà. Et on avait décidé que ça serait Sabrina la vedette ce soir.
D'accord, non, c'est pour ça.
Voilà. De toute façon, on peut prendre.
Non, mais je vais dire trois mots. J'ai pas grand-chose à dire, à vrai dire, sur ce sujet. Bon,
si tu pouvais en dire 10, ça serait bien.
D'accord.
Voilà.
Alors, j'ai pris quelques points et puis j'ai essayé de les retourner à l'envers pour animer, parce que si on est tous d'accord, ça n'a pas tellement d'intérêt, enfin, en tout cas pour la richesse du débat. Donc, ce problème de l'alcoolisation des jeunes, un problème de santé publique majeur. Je voulais dire que tous les problèmes, à chaque fois qu'on s'y intéresse, sont des problèmes de santé publique majeur. Donc, et ils sont d'autant plus des problèmes de santé publique majeurs qu'on trouve des mauvais objets facilement. Donc là, c'est un problème de santé publique majeur. En effet, il y a un mauvais objet, il y a une population ciblée. En plus, c'est les jeunes. En général, c'est les moins jeunes qui s'en occupent. Donc, c'est pas nous, c'est parfait. La conséquence, c'est qu'on renforce la loi. Donc, on augmente les interdits. Et la boucle est bouclée, puisque la population ciblée sont les jeunes, et que les jeunes ont ce problème avec l'interdit et les limites. Donc le système est bien huilé. Et je plaisante, hein, bien sûr, mais c'était une manière d'aborder le sujet d'une autre manière, d'essayer de le regarder un peu différemment. Le problème qui se pose aujourd'hui, enfin à mes yeux en tant que médecin sur le terrain, parce que c'est une réalité pour nous aussi, médecins, ils ne vont pas qu'aux urgences, c'est que nous, les parents, nous les amènent par le fond de culotte le lundi ou le mardi, et nous les déposent dans notre cabinet, et en nous disant, ben voilà, il y a un problème, agissez. Donc nous, on doit intervenir, faire de la prévention tertiaire. De ces sujets-là. Il y a quand même, sur le binge drinking, comme on dit, parce qu'en américanisant, c'est plus sympa, il y a quand même un problème économique, et j'aime bien que Jean-Claude l'ait rappelé, qui influence le mode d'alcoolisation, puisqu'en effet, beaucoup de jeunes, en tout cas de ce qu'ils nous en disent, consomment de l'alcool en dehors des bars, en dehors des discothèques, et avant. Ça a une petite contrainte quand vous donnez rendez-vous en boîte de nuit. Il faut quand même que vous ayez pris la dose avant. Et donc, ça a une influence aussi sur la rapidité de l'alcoolisation. Moi, ce qui me pose problème, ça me renvoie dans les jeunes que je vois, les parents que je vois, en discutant, parce qu'on en discute plusieurs fois, ça a à voir peut-être plus avec cette notion d'individuel et de collectif. Le binge drinking, moi, il me pose un problème sur la prévention des risques. Et il me pose un problème sur qu'est-ce que la fête. Parce que les alcoolisations des jeunes, à mon époque, ça existait. Hein. Ou alors, on n'a pas de mémoire, quoi, je veux dire. Il m'est arrivé d'être mal. Mais mal plutôt vers 5h du matin que 22h30. C'est un peu la nouveauté. Alors, il y a plein de facteurs qui interviennent. Mais peut-être qu'il y a le facteur collectif. À mon avis, on peut revoir ça avec l'idée qu'on a de l'évolution, où on est plus centré sur soi, sur son développement personnel, et puis aussi sur sa biture personnelle, et que le collectif est peut-être vu différemment. Alors moi, en tant que médecin, je ne vois pas trop comment accentuer la loi, faire des actions de prévention, aller voir Jean-Claude, lui dire qu'est-ce que fout la mairie. Alors, il rajoute un décret où on n'a plus le droit de boire de l'alcool à partir de 22h. De toute façon, on s'en fout, on a bu avant. Donc, non, mais, et puis, si jamais on voulait faire autrement, on serait bien Tintin. C'est-à-dire que si on veut boire à l'ancienne, grâce à la mairie, on ne peut pas, on est obligé de boire avant. Donc, c'est un peu vrai. Moi, en tant que médecin, mon job, il est de me dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux leur dire. Et l'idée, c'est peut-être de revoir le regard collectif. Prévention des risques. D'accord, les gars, vous sortez, vous allez faire la fête, vous allez être bourrés. Mais c'est une réalité. Mais une réalité qui touche pas... Ludovic a bien recadré la part de la population qui fait du binge drinking, qui est quand même extrêmement faible. Mais c'est un problème quand même. C'est comment collectivement, quand on se retrouve pour faire la fête, quand même, pour peut-être se rencontrer. Comment, ensemble, on va prévenir le risque qui est le coma éthylique, qui est l'accident de bagnole, qui est le viol et qui est l'homicide, enfin, les violences. Comment on le fait ensemble? Et donc, comment on fait la fête ensemble aussi? Comment fait-on la fête quand on est bourré à 22h? Et donc, c'est peut-être... Parce que je vois bien dans mon rôle de médecin, j'ai deux actions, c'est rappel de la loi quand même, parce qu'on me demande de le faire, et je le fais. La loi, peut-être moins au sens du bien et du mal, mais de quelques règles. Mais c'est rappel aussi de la grégarité, quoi, du collectif, de l'interrogation. Et je pense qu'avec les jeunes, c'est plutôt comment on se pose... C'est quoi faire la fête? Ok, on va faire la fête, mais c'est quoi faire la fête? Et comment on la fait? Voilà, c'est tout ce que j'allais dire.
Bien, merci beaucoup, Olivier. Alors, est-ce que vous avez une question? Pas immédiatement, vous réfléchissez. Donc, nous allons passer la parole à Sabrina Bigot-Beauchamp, qui est intervenante addiction jeunesse auprès d'un public jeune, donc au centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, et qui va nous faire part de son expérience et des possibilités peut-être d'action sur le terrain. Voilà, donc Sabrina, c'est à vous.
Donc bonsoir. Donc oui, je suis Sabrina Bigot et j'interviens auprès du public jeune. Donc moi, je n'ai pas fait une enquête sociologique, mais j'ai juste fait une observation des jeunes que je rencontre tous les jours Donc, mon public cible, en gros, en 2011, on a vu près de 2000 collégiens, 1800 lycéens, presque 1000 étudiants, dans des actions collectives. Donc, on intervient dans les établissements scolaires, mais on intervient aussi dans les centres socioculturels. Voilà, on n'intervient pas que dans les structures collèges et lycées. On intervient toujours en lien avec le personnel, donc les infirmières scolaires, les CPE, les professeurs aussi. Des fois, il y a des professeurs qui sont impliqués dans le cadre du CESC, comme vous avez indiqué tout à l'heure. Donc, nos actions se construisent en lien avec les infirmières, CPE et animateurs. En vue d'adapter le contenu et la forme de l'action, parce qu'il est bien évident qu'on ne fait pas du copier-coller d'actions de l'une à l'autre. On modère nos actions en fonction de l'âge, en fonction des classes, en fonction du nombre d'élèves dans la classe, en fonction si on est au début d'année ou en fin d'année, parce que quand on a des collégiens de 4e en début d'année scolaire et quand on les revoit après en juin, eh ben, ils ont beaucoup grandi et ils ne sont plus dans les mêmes consommations. Donc moi, je vais vous parler des étudiants, mais je vais aussi parler des collégiens et lycéens, parce que les étudiants ont déjà été... on en a déjà un petit peu parlé. Donc voilà, donc nous, nos actions, ça consiste en un temps d'échange, mais aussi un apport d'informations qui suscite les échanges les uns avec les autres. Parce que nous, on a notre discours, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de les faire parler entre eux, parce qu'on sait que la prévention de l'information que va dire le copain va avoir beaucoup plus d'impact que ce que nous, on peut dire. Donc l'objectif est du temps d'information, mais aussi de l'échange. Temps d'information nécessaire parce qu'il y a des idées reçues qui traînent, qui perdurent. Et les notions comme « Ah bah il y a un copain qui m'a dit que si on fait ça par rapport à l'alcool, ça marche », c'est toujours vrai. Des exemples qui peuvent me venir, des lycéens qui disent que prendre une cuite avec un champagne, c'est moins grave que si on prend avec un mauvais vin. Parce que c'est plus sain avec un bon champagne. Donc ils disent que c'est moins grave. Donc on en discute. En termes d'idées reçues, il y a aussi le temps d'élimination. Alors voilà, il faut vomir pour éliminer l'alcool. Donc là, on discute, on dit non, c'est pas si simple que ça. On parle aussi, alors pour les plus vieux, pour les lycéens et pour les étudiants, on parle aussi de la fierté de tenir l'alcool. Alors ça, c'est un truc, ah ouais, mais moi je bois, mais je tiens. Alors ça, c'est un peu fierté nationale. Ils sont tout contents. Quand après, on leur démontre que finalement, tenir l'alcool, devant les copains, c'est peut-être bien, mais qu'en termes de santé, c'est pas terrible. Que tenir l'alcool, c'est un des premiers signes de l'accoutumance, de la tolérance, et qu'après, ils gèrent un peu moins bien, ça, généralement, ça les questionne un peu, parce que pas maîtriser le sujet, ça les freine un petit peu. Donc voilà, donc ceux qui sont tout fiers en disant « moi, je bois, mais je tiens », à la fin de la séance, généralement, on les voit un peu plus qui baissent les épaules comme ça. Donc voilà, on aborde tous ces sujets-là, donc dans l'information et dans l'échange. On parle des risques aussi. Alors, on est essentiellement avec les jeunes sur des risques sur le court terme. Des risques routiers. Alors, quelque chose qui a bien marché en termes de prévention collective, le fameux Sam, le capitaine de soirée qui ne boit pas et qui ramène ses copains, c'est bien intégré dans la tête des lycéens et des étudiants. C'est quelque chose qu'ils mettent en place. Donc, il y a souvent une personne, des fois, c'est toujours la même, qui ne boit pas et qui ramène ses copains. Donc des fois, elle en a marre et puis elle ne fait plus les soirées. Ou alors, ils font la fête, mais ils dorment sur place. Donc c'est bien en termes de conduite. Par contre, du coup, comme on dort sur place, on peut boire plus. Donc ça, après, ça amène d'autres problèmes. Avec des risques sur le coma. Donc on est amené à parler du coma. Généralement, au lycéen, je pose la question... qui dans la classe, donc classe de lycéens, ils sont à 35 à peu près, qui a déjà eu dans son entourage, qui a déjà vu des personnes faire un coma éthylique. Sur une classe de 35, il y a à peu près 3 personnes qui lèvent la main. Donc après, on redéfinit bien ce que c'est le coma éthylique, quelqu'un qui dort et tout ça. Et donc voilà, ces témoignages, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous n'avez pas fait. Et donc voilà, on est sur des échanges comme ça. On a parlé aussi tout à l'heure des violences, on n'en parle pas assez. Alors, des bagarres, ça, on voit bien ce que c'est. Des violences verbales, on en parle un peu moins, mais il y en a beaucoup. violences sexuelles également, le fait de jeunes filles qui viennent me voir à la fin de la séance pour me dire que bah oui, c'est des choses qui leur est arrivé, de se réveiller le lendemain matin dans un lit, c'est qui ? Je sais pas. Donc ils ont une petite idée de ce qui s'est passé, mais voilà, mais c'est, je me rappelle plus, bah oui, mais c'est trop tard, bah voilà, c'est souvent comme ça. Donc on parle pas aussi assez des soirées pour avoir des souvenirs où on fait des photos et puis on fait des vidéos. Et si on s'en souvient pas, bah c'est bien, on a les images, sauf qu'après les images elles tournent. Donc elles tournent pas que par rapport à Internet, elles tournent aussi de téléphone portable à téléphone portable. Et ça peut aller très très vite. Un jour, il y a eu une photo d'une jeune fille qui est apparue sur un téléphone portable. En l'espace de 3 jours, comme je tourne dans les établissements scolaires, en l'espace de 3 jours, tout Poitiers était au courant. Tous les établissements scolaires étaient au courant de la photo. Tout le monde avait eu plus ou moins la photo ou avait eu connaissance qu'il y ait une photo qui tournait. Donc ça va très très vite. Donc après, en termes d'estime de soi et tout ça, il y a beaucoup de choses à retravailler derrière. Donc voilà pour les notions qu'on aborde un petit peu avec eux. Alors pour répondre à la question, faut-il se préoccuper de l'alcoolisation des jeunes ? Alors pour eux, rien d'inquiétant, il faut que jeunesse se passe, il n'y a pas de souci. Pour eux, rien à voir, on en a parlé un petit peu des médias tout à l'heure. Alors pour eux, rien à voir avec ce qu'on montre d'eux dans les médias. Dans les médias, je parle des documentaires qui parlent des jeunes et l'alcool le soir, donc différentes émissions. Je leur pose souvent la question, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces émissions-là ? La plupart des personnes disent non, parce que ce qu'on montre dans ces médias, c'est des images de jeunes qui font la fête avec excès. Alors ils nient pas, hein, ils disent nous aussi, la fête, on l'a fait avec excès comme ça, on l'a fait, ou on connaît des gens qui l'ont fait, mais ça ne représente pas la plupart des personnes ou la globalité de nos fêtes. Et du coup, ça pose deux types de problèmes différents, c'est que ça panique les adultes, qui le lendemain disent « Ah, vous avez vu le reportage, ah là là, les jeunes, machin ». Bah ouais, mais tous ne font pas la fête comme ça, et heureusement. Et ça a aussi un contre-effet, j'appellerais ça, c'est que du coup, les médias montrent les jeunes qui font la fête. Et du coup, les jeunes qui font pas la fête comme ça se disent, bah ouais, mais si moi je fais pas la fête comme ça, ça veut dire que du coup, je fais pas bien la fête ou je la fais pas. Donc ça amène un truc un peu négatif. Et du coup, d'où l'intérêt de parler avec les jeunes, et je reviens sur la notion de fête, on parle d'alcool, mais on parle aussi de fête. Bah c'est quoi une fête, c'est quoi faire la fête, c'est quoi une fête bien, c'est quoi une fête pas bien, et finalement est-ce qu'on n'a pas chacun sa définition de la fête et on n'est pas obligé de faire comme les copains pour s'éclater autant qu'eux, quoi. Faire au moins quelque chose qui nous plaît et qui nous correspond. Deuxièmement, pour eux il n'y a pas de souci parce qu'ils boivent pour faire la fête, donc il n'y a pas de problème. Pour eux c'est un ingrédient indispensable aux soirées, où une bonne fête des fois est définie en fonction des quantités d'alcool. Ils utilisent l'alcool comme déstressant, facilitateur de rencontres, désinhibiteur pour aller rencontrer l'autre plus facilement, parce que même s'ils paraissent à l'aise, bah des fois c'est pas forcément le cas. Alcool comme amplificateur de la fête, où le n'importe quoi devient prétexte à rire. Jusqu'à là, c'est les fêtes de jeunes, mais c'est pas que les fêtes de jeunes. Donc ça correspond à d'autres fêtes aussi. Ce qui peut différer du coup avec les fêtes d'adultes sont peut-être les quantités, la rapidité et le sens des alcoolisations qui y met derrière. On oublie là encore ceux qui ne consomment pas ou qui consomment peu, ou avec modération. Quand la régularité s'installe chez certains, bien souvent ils nous disent « bah oui, mais nous on fait la fête le jeudi, le vendredi, le samedi, donc il n'y a pas de problème vu qu'on ne boit pas tous les jours ». Sauf que, bah oui, mais si c'est tous les jeudis, tous les vendredis, tous les samedis, et qu'ils en ont encore dans le sang le dimanche, bah en termes de régularité, ça commence à être un petit peu problématique. Et puis après, ils disent qu'ils boivent que pendant les fêtes, jamais seuls. Ah oui, parce que boire seul, pour eux, c'est trop connoté alcoolique. Donc du coup, bah, des fois, ils prétextent le fait d'aller chez des gens ou d'inviter des gens. Comme ça, du coup, ils boivent pas seuls, ils boivent avec des gens. Donc là, on les questionne aussi sur la régularité et sur le prétexte. De l'excès, et alors ? Alors, ils disent très bien, oui, prendre des cuites, avoir des excès, bah oui, hein, mais on gère. Ah, ça, ils gèrent. Ils disent ça, c'est leur expression. Ils disent gérer. Et puis, ils disent souvent aussi qu'il faut en profiter avant de travailler, d'être parent, donc vaut mieux le faire maintenant. Voilà. Hein ? Oui. Là, je recite ce qu'ils disent. Hein. Et puis, ils disent aussi que les parents l'ont fait avant eux et qu'il n'y a pas eu de soucis, donc pourquoi pas, quoi. Donc, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, sauf quand, quand ils sont touchés de près ou de loin par un copain qui a eu un accident ou un copain qui a fait un coma et qui est aujourd'hui plus là. Quand il y a eu des violences, quand ils ont perdu des amis. Donc là il y a plus de questions par rapport à ça. Et voilà, leur expression, on ne va pas mourir idiot, il faut bien qu'on essaye un jour. Quoi. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Pour terminer, dire qu'on n'est pas seul, parce qu'on peut faire notre possible à faire de la prévention, à informer les jeunes, sauf qu'on n'est pas seul et que bien souvent, le discours parental, des fois, il n'est pas très clair. Quand nous faisons des informations en disant que, en parlant d'alcool, de cannabis, et quand les jeunes nous disent « Bah oui, mais moi je m'en fous, le cannabis, je le fume avec mon père le soir », notre poids, là, du coup, il se questionne un petit peu, quoi. Donc on ne pourra pas agir seul, et c'est bien pour ça qu'on essaye de sensibiliser les parents. On a d'ailleurs créé une petite plaquette qui est à l'entrée, là, un petit livret vert. Voilà, je ne l'ai pas amené, voilà. Pour parler un petit peu aux parents, bah, les fêtes, comment ça se passe, comment réagir aussi avec un ado, parce que je ne dis pas que c'est simple. Hein. Je ne dis pas que c'est simple, souvent les ados, dès qu'on leur pose une question, ils ont tendance à se braquer et à fermer tout simplement. Sauf qu'ils expliquent aussi qu'ils ont besoin un petit peu de limites et à un moment donné de cadre. Et ça, ils le disent, mais ils ne le disent pas trop fort parce qu'ils n'ont pas envie d'être cadrés trop non plus. Ils sont un peu complexes, hein, c'est des ados. Donc voilà, pour conclure, certains ados sont préoccupants par rapport à leur rapport à l'alcool et à la transgression de manière générale, mais beaucoup vont bien et tant mieux.
Merci beaucoup pour ces moments de vie et de rencontre, hein, auprès donc des jeunes collégiens, lycéens, et voilà, et un peu moins étudiants, puisqu'on en avait parlé un petit peu tout à l'heure, mais ça peut revenir. Voilà, donc le moment des présentations est terminé, donc vous avez pas mal de temps devant vous, voilà, pour pouvoir échanger avec les personnes qui sont sur la tribune. Voilà, monsieur.
Donc moi je suis maître artisan chocolatier, chercheur et un observateur. Donc depuis à peu près plus de 20 ans, je reçois à peu près tous les ans, on reçoit à peu près 5000 jeunes, parce qu'on était avec l'angle civilisation, on avait commencé. D'ailleurs on me disait pourquoi vous ne recevez pas des groupes de troisième âge, c'est plus rentable. Effectivement ils achètent moins, ils ont moins d'argent. Mais moi c'était un peu mon laboratoire. Donc déjà, je leur pose des questions sur les allergies, 20% d'allergiques. En fin de compte, à un moment donné, on vient parler de la drogue, à qui on n'a pas offert de la drogue. Pratiquement personne m'a levé, moi on ne m'en a jamais offert. Et puis, donc mes recherches m'ont amené par rapport aux antioxydants du cacao, les oméga-3. Alors mes études sont parrainées depuis 13 ans par le professeur Cabrol. David Servan-Schreiber, vous trouvez sur son site Guérir. On a le professeur Joyeux, enfin, j'ai beaucoup de gens qui suivent ça. Et puis, j'ai commencé un tour de France il y a 6 ans, dans les salons bio, diététiques, parapharmacie. Et le hasard des rencontres valent tous les rendez-vous du monde. C'est ce que disent mes amis berbères. Et en fin de compte, c'est vrai. Et donc, je rencontre beaucoup de jeunes. Et suite à une enquête que j'ai faite auprès des consommateurs, je suis rendu à préparer 6000 retours par rapport aux effets sur l'oméga choco. Et je suis tombé sur les insomniaques, donc je me suis aperçu, ça m'a fait un peu rire sur le départ, mais enfin la personne ne savait pas, moi non plus, donc pas d'effet placebo. C'est tout simplement que le professeur Cabrol et moi-même, on avait un effet de chauffe quand on laissait fondre tout doucement. Et on s'est aperçu que c'était la sérotonine, c'était un précurseur lent de la sérotonine, et le magnésium qui jouait sur ces gens-là. Et je me suis aperçu que, bon, après on est tombé par rapport à la sérotonine, qui est le précurseur de l'alcool, qui est rapide, et on s'est aperçu que les gens croquaient rapidement le chocolat, alors qu'il faut laisser fondre. Et comme je leur disais, vous me prenez le chocolat comme un alcoolique boire et sec un Bordeaux. Et donc, vous ne capterez jamais la sérotonine. Et de là, on est tombé sur les alcooliques, les drogués, les fumeurs. Et en fin de compte, j'ai mis au point ce qu'on appelle les repères du goût. Et maintenant, on dit à un alcoolique, bah, faut arrêter de boire. Mais ça ne marche jamais. Quand j'ai un groupe d'obèses, si je leur dis, vous arrêtez de manger, bah, ça va marcher. Au bout d'un mois, ils vont tous mourir. Effectivement, mais ce n'est pas une solution. Donc, je leur réapprends. J'ai mis une méthode pour réapprendre le plaisir de déguster, de capter la sérotonine du vin. et ils ont aidé avec le précurseur du chocolat. Et en fin de compte, ça fait quand même pas mal d'années que je le fais maintenant. Alors, je me suis pris pas mal de claques au départ, puisque vous croyez faire plaisir et ils vous recrachent le chocolat. Mais maintenant, on marche bien, puisque je fais avec des alcools éthyliques. Dernièrement, j'ai fait avec tout un groupe de sommeliers, viticulteurs et de gens du monde du vin. Les viticulteurs ont retrouvé leur vin 10 fois meilleur qu'ils ne l'avaient. En fin de compte, ça permet de mettre en valeur le palais et de capter la sérotonine et de réapprendre comme un sportif aux gens à recapter la sérotonine. Donc ça peut être manque d'oméga 3 à la naissance, il y a plein de raisons, mais quand on est jeune, tout est permis, on peut, comme un sportif, sans être un sportif de haut niveau, se réhabituer à capter la sérotonine. Donc reprendre plaisir. Et très vite, on a la satiété. C'est-à-dire que je vais prendre des petits verres comme ça. Il peut y avoir des jeunes de 10-12 ans. J'ai fait la mairie, pardon, Saint-Jean-de-Mont. J'ai fait toutes les classes depuis la maternelle jusqu'à les CM2. Alors la maternelle, naturellement, on ne va pas parler d'alcool. Mais à cet âge-là, on part des repères de goût par rapport à la nutrition. Mais quand on rentre sur l'alcool avec les jeunes de 11-12 ans, ils sont très inquiets, ces jeunes-là. Tous les inquiètent. Donc, c'est comme ça qu'on leur donne des repères. Voilà. Et donc, je pense que c'est une voie qu'il faut vraiment continuer.
Très bien, merci. Notamment, il est en effet très important de pouvoir réintroduire la notion de plaisir et d'essayer d'échanger autour de ça. Est-ce qu'il y a une autre remarque ou question ?
On peut noter au CIPA, donc collège, je suis la collègue de Sabrina. C'est vrai qu'on travaille quelquefois en effet sur l'éducation au goût et finalement ça permet de réfléchir pourquoi est-ce que je consomme l'alcool, pour le goût ou pour les effets. Donc c'est tout un travail qui peut être très intéressant.
Est-ce qu'on a une idée des ressorts psychologiques qui peuvent animer les jeunes pour effectivement aller vers un raccourcissement, si je puis dire, de la fête, puisque à 22h30, comme le disait Jean-Claude Bonnefond, tout est terminé, alors que s'ils prenaient leur temps de boire tranquillement, ils pourraient en profiter toute la nuit.
Mais est-ce qu'ils font la fête ? Est-ce que c'est faire la fête quand on devient ivre, dans le coma en quelques minutes ? C'est peut-être pas, en effet, faire réellement la fête qu'ils veulent faire. Cela, cette petite proportion. Alors, est-ce que vous avez des idées les uns les autres ? Oui, Sabrina va nous dire.
C'est pas la fête le plus longtemps possible qui cherchait l'ivresse. Donc, d'où l'intérêt de boire vite, en fait. C'est pour ça que certains ne mangent pas, pour avoir l'ivresse qui vient le plus vite possible. C'est l'état qui recherche, en fait, clairement. Oui, ça peut être ça. Ça peut être ça. C'est pour rire aussi, tout simplement. Pour eux, je dis ça pour eux. C'est pour être ivre plus vite, pour soi-disant passer une meilleure soirée. Pour eux. Hein. Et pour oublier le stress aussi pour certains. Ouais.
Oui. On peut avancer quand même qu'il y a différentes hypothèses psychopathologiques qui. Explique les positions de ces jeunes. Alors Ludovic en a un peu parlé tout à l'heure, que ce soit dans le champ de l'anthropologie ou dans le champ de la psychologie, il y a des hypothèses qui sont formulées pour expliquer ces ivresses qui tiennent à des éprouvés corporels de limite que ces jeunes recherchent, d'affaissement du corps, etc., et éprouver aussi d'indifférenciation par rapport au groupe, à l'ensemble des pairs, qui va dans le sens aussi de ce qui se joue à l'adolescence du processus d'individuation, où il s'agit en même temps d'appartenir à un groupe et en même temps de se différencier des autres. C'est tout ce champ qui est aussi donc de s'éprouver par rapport à des limites et de se positionner par rapport au social. Voilà.
On peut rajouter et aussi bien sûr l'attaque du corps qui est ici plus inconsciente hein, qui n'est pas une attaque du corps comme des scarifications, des prises de risque, etc., mais qui, pour moi, est à peu près équivalente. Et puis, on trouve aussi un certain nombre de jeunes avec des antécédents de psychotraumatisme, hein, qui ne vont pas, bien sûr, vous révéler comme ça, hein, mais qui existent. Et là, on rejoint ce que nos amis sociologues sont en train de rechercher, hein, c'est les liens aussi avec le style de fonctionnement familial, hein, et les difficultés qu'ils ont pu avoir dans leur sécurité intérieure, hein, et dans quelque chose qui est difficile pour eux, bien sûr, à dire, hein, c'est comment ils étaient quand ils étaient enfants, est-ce que leurs parents étaient dans un mode de fonctionnement sécure ou pas, enfin bon, voilà, les difficultés parentales qui existent et qui, malheureusement aussi, vont impacter les enfants à un moment donné, et on va oublier un peu tout ça et on va regarder que les effets. Hein, voilà, enfin bon, pas monopoliser trop la parole là-dessus, mais... Oui, alors Monsieur Bonnefond.
Juste pour aller. Une des questions qu'on se pose par rapport au, merci beaucoup, par rapport aux jeunes, c'est le lien avec la famille, c'est comment en tant qu'institutionnel, je pense aux animateurs de centres socioculturels, hein, des maisons de quartier avec lesquelles le CIPAD travaille, etc. Les animateurs peuvent détecter des comportements ou à risque, etc. Donc il peut y avoir un travail fait par un professionnel auprès d'un jeune, mais c'est comment ce jeune, lorsqu'il se retrouve dans sa cellule familiale, s'exprime, s'épanouit, etc. Et c'est souvent le triptyque qui n'est pas facile à vivre sur ces questions-là, mais ce n'est pas que sur ce domaine-là, il faut faire attention. C'est, j'allais dire, le référent adulte en dehors qui n'appartient pas au cercle familial, le jeune et le parent. Là, c'est le triptyque, et si on peut parler de triptyque, hein, mais et parfois difficile à vivre. Avec d'autant plus, alors bon, là aussi, soyons prudents, je n'emploie que le mot prudence ce soir, hein, mais avec aussi des phénomènes familiaux, de séparation, de recomposition familiale, etc. On peut aussi trouver des fragilités au sein de la cellule familiale qui peuvent expliquer qu'il n'y a pas ce référent adulte pour rappeler un peu la notion du droit de certains comportements, etc. C'est un élément, hein, c'est pas le seul, parce que quand on regarde les CSP, les catégories socioprofessionnelles des jeunes que l'on retrouve soit au CHU ou soit que qu'on retrouve éméchés dans les grandes rues de Poitiers à 4-5 heures du matin, attention, hein, c'est toute la population. Et tout à l'heure, on parlait de la population étudiante. De toute façon, la population étudiante, vu le nombre de jeunes de catégories socioprofessionnelles, de familles populaires, etc., qui est en fac, ceux-là, de toute façon, ils ne sont pas dans la composition étudiante dont on parle le jeudi soir.
Oui, je pense qu'il faut un mot seulement. Non, on va... C'était pour... Oui, on va pouvoir décrire certains profils, certaines fragilités. Je pense que si on veut s'intéresser à ce sujet-là, il faut aussi faut éviter de... Parce que, et peut-être de comparer avec... de remonter les étages. Moi, j'ai l'impression, quand j'en discute avec eux, que ce type d'alcoolisation est une manière de montrer sa difficulté avec le monde qu'il aurait proposé ou qu'il aurait présenté, comme notre génération. Et parce qu'en effet, Jean-Claude a raison, dans le milieu étudiant, ce ne sont pas les milieux défavorisés. On n'a pas très bien réussi là-dessus, quand même. Quand les catégories sociales de l'université ne sont pas forcément les plus défavorisés, ceux qui font la fête en centre-ville de Poitiers en particulier. Donc il n'y a pas de profil social où il n'est pas dans le sens qu'on attend. Ma génération, le cannabis n'était pas aussi répandu que ça. Aujourd'hui, le cannabis, c'est un mode de socialisation classique. L'écrasante majorité des jeunes et même de plus en plus des adultes d'ailleurs, en consomment. Autrefois, c'était une manière de prendre position, maladroitement peut-être, mais en tout cas de prendre position sur le monde qu'on nous proposait. Aujourd'hui, bon, voilà, c'est peut-être... Alors, je ne dis pas que ce soit ça, mais je dis qu'il faut retrouver des facteurs, en effet, psycho, sociaux, individuels et tout, peut-être aussi collectifs, et de regarder par rapport à notre époque. Parce que les accidents de la route à notre époque, il y en avait aussi. Alors, ils n'avaient pas lieu à 11h du soir, mais à 5h du matin. Dans ma classe, moi, dans un village, il n'y avait pas une classe d'âge qui n'avait pas perdu un ou deux copains d'accidents de voiture. Il ne faut quand même pas l'oublier.
Non, je voulais revenir un peu sur l'intervention de monsieur et madame dans le public tout à l'heure.
Parlez plus fort, on vous a pas...
Je voulais revenir sur l'intervention de monsieur et madame dans le public tout à l'heure sur la précocité horaire de l'alcoolisation. Une des raisons pour laquelle, à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société où pour les jeunes, le paraître, l'image de soi est très importante. Et donc, du coup, on est souvent dans un rôle et on recherche le prolongement de cette désinhibition avec l'alcool. Donc, du coup, on s'alcoolise beaucoup plus tôt pour être dans un état second un peu plus longtemps. Et être peut-être un peu plus soi-même. Après, effectivement, l'alcool n'est pas la raison ou le bon moyen pour arriver à ce résultat, mais ça peut être l'un des facteurs.
Oui, merci pour vos réflexions. Alors, en effet, je crois que c'est assez important ce que vous dites sur le... En tout cas, pour certains, parce que je crois qu'il faut se garder de toute généralisation, hein. Mais pour certains, la possibilité donc de se montrer d'une certaine manière est fondamentale. En tout cas, soit c'est est-ce que c'est être plus soi-même ou être plus un autre, pensant que cet autre qu'on va montrer, c'est plus celui qu'on voudrait être. Bon, voilà. Enfin, je ne veux pas entrer dans une complexité, mais il y a quelque chose que, dans tout cas, de cet ordre-là, et qui est important pour certains. Et ça, c'est, vous avez bien raison d'avoir insisté là-dessus. Alors, je crois qu'il y a une autre question, monsieur. Allez-y.
Oui, je voudrais simplement revenir sur... je me pose la question, est-ce que c'est optimiste ou pessimiste que de lire la deuxième conclusion qui dit « La carrière des consommateurs qui, après un apprentissage, font des excès, puis reviennent à une consommation plus raisonnée. » En lisant ça, je fais le lien avec ce que disait Madame Bigot aussi tout à l'heure par rapport aux conclusions des jeunes qui disent « Nos parents l'ont fait, puis au final, ça ne va pas si mal que ça maintenant. » Alors, est-ce qu'on n'est pas en train, en acceptant cette lecture-là, de dire que ce sont des épiphénomènes qu'il faut les banaliser, que c'est normal dans le comportement de notre société, et puis que il faut que ça se passe, il faut que ça se fasse. Et si c'est comme ça qu'on raisonne, je pense qu'on n'a pas fini d'avoir effectivement des problèmes et de gros problèmes.
Alors, j'espère que non, puisque la preuve ce soir, on est là pour vous montrer peut-être le contraire. Oui, non, mais vous, c'est. Vous avez tout à fait le droit de le dire et on a le droit de discuter et d'échanger. Voilà. Donc, voilà. Alors, je crois qu'en effet, il faut éviter de dramatiser et que ce soit l'arbre qui cache la forêt. En effet, de penser que tous les jeunes s'alcoolisent vite, massivement, etc. C'est faux. C'est qu'une minorité, comme c'est qu'une minorité de jeunes qui vont mal. Hein. Ça, on l'a toujours dit. Moi, je suis psychiatre d'enfants et d'adolescents. Hein. Bon, faut le répéter régulièrement. C'est vrai. Mais ceci dit... Nous nous intéressons aussi à ceux qui vont moins bien et voire ceux qui vont mal. D'autant plus quand on est dans un milieu soignant, bien évidemment. Alors nous, on voit plutôt que ceux qui vont mal. Hein, et qu'on a peut-être une vision un peu déformée. Quelqu'un de ma famille disait, mais de toute façon, toi, tu peux pas avoir une vision convenable de la situation. Tu vois toujours que des gens qui sont malades. Donc, voilà. Donc, tu n'as pas une vision convenable de la société. Bon, c'était là aussi, comme vous, une remarque. Hein, mais je crois qu'il faut toujours prendre les choses sérieusement et puis dans toute leur complexité. Voilà, ça, c'est très important. Alors, à la table.
Monsieur Bonnefond, peut-être.
Ouais, c'est pour aller dans le même... Nous, on ne vient jamais nous parler des fêtes qui vont bien. Des fêtes de quartier, la fête de voisins là, qui a lieu tous les derniers... Je ne sais plus trop, vendredi du mois de juin ou du mois de mai, là, ça qui s'est multiplié à une vitesse. Il y en a, je ne sais pas, il y a plus d'une centaine de fêtes de voisins dans Poitiers, etc. Les fêtes comme les étudiantes qui ont eu lieu, là, qui se sont achevées la semaine dernière, le week-end dernier, etc. Voilà, ces fêtes-là, on nous parle de la fête que quand ça va mal. Et on vient nous dire, mais pourquoi vous avez autorisé, pourquoi vous avez laissé faire, etc. etc. Donc, on reporte sur l'autorité publique, quelle qu'elle soit, une responsabilité qui nous appartient à tous d'organiser et de savoir faire, et de savoir faire la... de savoir faire la fête, quoi. Et c'est là où c'est... Moi, je vois très bien dans un établissement de Poitiers un bar dont l'activité principale, c'est la retransmission des événements sportifs. Donc, un bar où il y a je ne sais pas combien, une vingtaine de grands d'écrans de télé, etc. Une étudiante habite à côté de ce bar. Bah, plutôt que d'aller voir le gestionnaire du bar un soir pour lui dire, ben voilà, ce soir-là, il y a eu plus de bruit, etc. Son réflexe, ça a été de demander à ses parents de faire un courrier au maire, la jeune fille, elle avait 20 ans, hein, de faire un courrier au maire et de faire un courrier au DDS, au directeur départemental de la sécurité publique. Le fonctionnaire recevant la lettre, M. Bonnefond, moi je dis le premier truc, c'est d'abord de faire rencontrer la jeune étudiante avec le chef d'établissement. Tu dis, non, mais moi c'est pas mon problème, c'est votre problème, la réponse. J'allais dire, on marche à côté de nos pompes quand même. Hein. Le vivre ensemble, il est encore dur à construire. Hein, si on reporte tout sur l'institution publique, et encore plus tout sur le politique. Voilà, je suis bien placé pour en parler. Voilà.
Alors, le docteur Place voudrait dire un mot. Ah oui, attendez, docteur Place. Francis, attends deux secondes. Voilà. Médecin du travail.
Le bruit, oui. Hein, bon, okay. Voilà. Donc, après, je veux dire, c'est pas à une jeune fille de 20 ans. Je veux dire, elle aurait beaucoup de mal à aller rencontrer un propriétaire de bar, je veux dire, pour aller lui expliquer que c'est bruyant, que si, je veux dire, c'est quand même une démarche qui n'est pas très facile, à mon avis. Donc, je ne sais pas quel est le contexte de cette affaire-là, mais je veux dire, c'est pas si simple que ça. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Vous voulez dire que, oui, on trouve normal de s'adresser directement à l'institution qui doit tout réguler, s'occuper de tout. Je suis d'accord avec vous, mais je me mets à la place d'une jeune fille. C'est vrai que ce n'est pas très évident, surtout que je pense que la réception ne serait pas forcément... Voilà. Alors, je vais juste vous donner un exemple. Il m'est arrivé d'aller un soir dans un bar, je me sens du travail, donc je suis allé un soir dans un bar, je voulais voir le poste d'une jeune fille qui était en apprentissage et qui, effectivement, donc travaillait à une heure qui était quand même déjà la nuit. D'accord. Et il se trouvait que, bon, moi, je n'avais pas fait attention, mais c'était le jour du Beaujolais nouveau. Bon, voilà, donc je suis arrivé. Voilà. Tout le monde fêtait ça, le patron, etc. Bon,
voilà encore un motif de fête.
Le patron était un peu éméché, etc. Bon, voilà, bon, j'ai dit, je tombe pas bien. Voilà, et puis, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. Bon, la jeune fille était un peu gênée, mais bon, alors le patron voulait à tout prix que je goûte son Beaujolais. Bon. Voilà, mais bon, c'est pour dire qu'on essaie de faire respecter des règles qui sont édictées. Voilà. Après, on se heurte à des situations où les gens font la fête. Et voilà. Bon. Alors après, ça peut déranger des gens, effectivement, des gens qui habitent à côté, le bruit.
Oui, sur le bruit, ouais.
Alors moi, je suis très sensible au problème du bruit parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas toujours très bien entendu.
Trop entendu. Merci pour ces témoignages. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions ou
Oui, moi je reviendrai bien sur les.
Hélène, allons-y.
Par rapport aux jeunes qui consomment de l'alcool, enfin bon, ou différents produits, on peut parler de trois modes d'usage. Il y a l'usage festif, l'usage plutôt autothérapeutique, hein, bon, pour se faire du bien par rapport à une problématique personnelle, ou l'usage toxicomaniaque, où là vraiment c'est une recherche de ce qu'on appelle la recherche de défense. Donc l'usage festif, qui est l'usage majoritaire chez les adolescents, la première chose à faire, en fait, c'est de repérer chez les consommateurs s'ils sont dans le festif ou dans l'autothérapeutique, dans quel cas ils ont peut-être besoin déjà d'une aide. Et dans la consommation à caractère toxicomaniaque, là, il faut vraiment intervenir. Alors, au niveau de l'usage festif qui est, on va dire, en prévention primaire, peut-être, l'idée à ce moment-là, c'est de prévenir tout le risque d'accident, accident et coma éthylique. Donc là, on est là-dessus au niveau de l'usage festif, c'est-à-dire et capacité d'organiser une fête, comment les fêtes sont anticipées, etc. C'est tout autour de ça. Après, évidemment, si c'est un autre usage qui est fait du produit, on est sur d'autres problématiques. Voilà, c'était un petit peu pour redéfinir les différents types de prévention qui peuvent se mettre en place.
Merci Guylaine d'avoir précisé tout ceci et qui éclaire notre assemblée. D'autres remarques ou questions? Monsieur voudrait rajouter quelque chose.
On parlait des jeunes qui jouent le rôle de parents. Et j'ai un jeune de 19 ans qui est venu me voir suite à une conférence que j'avais faite sur vin et chocolat. Et m'a avoué que son père était alcoolique, sa mère en pleine dépression, séparée. Et la tante, il vivait avec la tante, et la tante fumait minimum 30 cigarettes par jour. Donc ce jeune est venu me voir et me dit, voilà, vous croyez que ça pourrait marcher avec mon père l'histoire pour voir si le vin est dégueulasse, quoi. Et je lui dis, bah oui, si vous voulez. Alors il me dit, je vous prends 5 tablettes. Donc je lui en offre 5 de plus. Et je lui explique, il m'a redemandé. Et le lendemain, il me rappelle, il me dit, mon père a trouvé le vin dégueulasse. Et donc là, on attend les résultats. C'était la semaine dernière. Hein. Mais en fin de compte, pour dire que même lui qui est dans un milieu quand même pas favorisé, hein. Endettement, enfin il y a tout, hein. et son frère aîné, lui, c'est pareil, il plonge, quoi. Et lui, ce jeune de 19 ans, vous voyez, c'est lui qui joue le rôle du parent, quoi. Vous voyez, il y a des jeunes qui sont quand même qui ont la chance d'avoir cette force.
Très bien. D'autres commentaires sur ce sujet? Docteur Papé.
Peut-être juste un mot pour rappeler quand même pour rappeler que les problématiques de dépendance sont toujours des problématiques excessivement complexes, toujours singulières, et jamais qui ne peuvent jamais se réduire à du biologique. Hein. Ça ne se réduit pas à des neuromédiateurs. Je crois qu'il y a une complexité de l'être humain qui est plus grande que celle-ci. C'est simplement pour rappeler cela.
Oui, merci. Alors attendez, le monsieur va. Non, ben, monsieur, là, donnez la parole à monsieur, là, voilà, que ça soit, oui.
Non, ce que moi, je voudrais savoir, en fait, je ne sais pas si c'est comme ça que ça doit se passer, mais peu importe. Aujourd'hui, comment est-ce que peuvent être pris à bras-le-corps ce genre de problème, et notamment dans les établissements scolaires? Alors, j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait sans doute des comités ou des choses comme ça. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que pour noyer un problème, il n'y a rien à faire, il faut faire un groupe de travail, quoi, hein. C'est très, très important. Donc, sérieusement, quel est le rôle de ce comité? Parce que c'est bien, il faut bien mettre le doigt rapidement sur le problème. Au début de la réunion, enfin de l'information, j'ai été un peu surpris parce que on parlait beaucoup des étudiants et du monde étudiant de Poitiers. Bon, après, crescendo, et vous avez donné la précision dans les établissements, ou je dirais les collèges et les lycées. Bon, est-ce que réellement il y a des informations qui sont faites auprès des collégiens et des lycéens, et que ce n'est pas simplement ramené au fait qu'il y ait un enseignant, un éducateur qui mette le doigt sur le comportement d'un enfant? Et qui se traduisent après par une discussion entre les responsables de l'établissement et tout, et puis après intervention auprès peut-être de l'assistante sociale ou de l'infirmière quand il y en a, parce qu'il y a aussi des problèmes d'effectifs, il faut pas l'oublier. Alors moi, la question que je pose, c'est, mais concrètement, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de mis en place de façon, alors le mot va pas plaire parce que c'est jamais agréable d'entendre obligatoire, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des informations obligatoires qui seraient faites dans les établissements sur les problèmes liés à l'alcoolisation des jeunes? Aujourd'hui, on nous met des dessins sur les paquets de cigarettes en disant que c'est horrible, pour nous inciter à ne plus fumer. Vous pouvez aller acheter du whisky, du pinard, n'importe où, n'importe quand, vous n'aurez jamais de problème. Il n'y a pas sur les bouteilles de whisky et de pinard, vous n'avez pas des photos d'accidents de la route.
Il y a le logo pour la femme enceinte, c'est tout ce qu'il y a.
Oui, mais enfin, moi, c'est pas à cause de ça. Non, mais sérieusement, quoi, je veux dire que... Il faut arrêter. Je crois qu'il faut qu'on arrête de rester sur, euh, sur l'aspect du constat et puis et se plaindre entre nous de dire c'est très grave. Alors même si c'est une population pas très élevée, comme vous nous l'avez montré de façon très intéressante tout à l'heure, mais est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut supporter le fait d'admettre que c'est une population qui n'est pas énorme, mais que ce soir, ils vont être trois dans une bagnole à s'écraser contre un camion parce qu'ils auront trop picolé, quoi. Voilà.
Ouais. Donc, les CESC, c'est des commissions qui sont obligatoires dans tous les établissements scolaires qui réunissent généralement les CPE, les proviseurs ou principaux, les infirmières scolaires, assistantes sociales, mais du coup, elles ne sont pas trop là, elles n'ont pas trop de temps de présence. Et les personnels intéressés, donc ça peut être aussi bien des enseignants comme les personnes de la restauration, comme voilà. Et donc ils se réunissent pour déterminer les projets à mettre en place. Donc on est souvent invité. Ce soir j'avais une réunion, j'ai pas pu y aller pour savoir qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place. Donc si on n'y va pas, en tout cas on travaille en lien avec les personnes qui font partie de ce CESC, où on détermine d'une action à mettre en place auprès des jeunes. On ne peut pas intervenir partout. En 2011, on a fait quand même 80 interventions auprès de 15 établissements. On a vu près de 2000 collégiens, ça c'est, je vous parle des collèges, sans compter des étudiants et après les lycéens. Donc c'est des interventions collectives qui durent de 1 heure à 1 heure et demie. 1 heure et demie, c'est bien au niveau du temps d'intervention. La plupart du temps, et on aime bien que ça soit le cas, intervenir avec l'infirmière scolaire, parce que nous, on est là pour diffuser de l'information, on est là pour susciter les échanges, on est là aussi à la fin ou pendant la pause pour discuter avec ceux qui n'ont pas osé poser des questions en grand groupe, parce que poser des questions devant 30 élèves, bah, des fois, c'est compliqué, ou parler de son papa qui est alcoolique ou de son copain qui s'est tué en voiture, bah, des fois, on préfère le dire en aparté. Et c'est aussi à un moment donné faire le lien, parce que nous on connaît pas les jeunes, on va pas retenir tous les prénoms, en disant à la fin à l'infirmière ou au CPE, bah voilà, j'ai vu un jeune qui va pas bien, qui me semble, alors mis à part la provocation, parce qu'ils sont toujours un peu provoques, mais en tout cas on arrive à un moment donné à déceler les personnes qui sont un peu plus en risque que d'autres, et à un moment donné de passer le lien en disant bah voilà, cette personne a l'air un petit peu en risque, ça serait bien d'en discuter un petit peu avec elle. Et donc nous, on en informe aussi le jeune en lui disant, bah voilà, je trouve que tu vas pas bien. Je dis, ça serait bien que t'en parles. C'est bien que tu m'en parles à moi, mais ça serait bien que t'en parles et que pas que à moi, mais que ça soit suivi un petit peu sur le long terme. Donc voilà, en termes d'action collective, on en fait beaucoup. On pourrait faire systématique, mais ça serait compliqué. Ce qui est intéressant, c'est quand on arrive à intervenir sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire que généralement, il y a des établissements scolaires qui nous appellent sur les classes de 4e. Où on fait de l'information collective, et après ils nous redemandent sur les classes de 3e, donc les anciens 4e, et là on peut encore plus échanger, on s'est vu une année l'année d'avant, donc ils ont plus confiance aussi, parce que c'est qui cette personne extérieure qui arrive et qui vient nous parler de ça, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Au début ils ont un petit peu de réticence par rapport à ça. Donc si on peut intervenir l'année suivante, et moi je revois, ça m'est arrivé encore récemment, des gens que j'avais vus au collège, que j'ai revus au lycée et que j'ai vus la semaine dernière à la fac, et ils me disent « Ah bah je vous ai déjà vu au collège, ah bah je vous ai déjà vu ». Et cette régularité fait qu'à un moment donné, on peut discuter et on peut échanger. Après, on ne peut pas être partout non plus.
Alors moi je veux bien dire un petit mot sur l'histoire de la prévention. Vous savez comme moi que montrer des images horribles, ça peut être peut-être efficace pour ceux qui sont déjà un peu convaincus ou susceptibles d'être affectés par ce qui se passe. Et en général, sont rarement ceux qui vont mal. On le sait bien depuis longtemps. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas le faire. Mais comme j'ai entendu l'autre jour un monsieur qui achetait ses cigarettes là devant moi j'achetais pas de cigarettes, mais il achetait des cigarettes, et la personne lui a donné un paquet de cigarettes, il l'a regardé, il a dit non, j'aime pas cette photo, j'en voudrais une autre. Voilà, donc, enfin, c'est juste pour... Mais ça, c'est une histoire vécue. Voilà, bon, alors, donc, si vous voulez, je crois qu'en effet, tout ceci est intéressant, mais voilà... ne peut pas être une réponse suffisante, mais il faut quand même bien évidemment le faire. On a été long en France à le faire par rapport à nos amis anglo-saxons. Deuxième réflexion, c'est au sujet des risques. Vous savez, quand on est adolescent, la mort, ça ne veut pas signifier tout à fait grand-chose, et ce n'est pas forcément l'arrêt de la vie, et c'est quelque chose qui est compliqué dans la tête des adolescents, et ils n'ont pas forcément le sentiment que, de toute façon, ils vont forcément mourir un jour. Hein. Donc je crois que les craintes au sujet de la mort, des choses comme ça, abordées de cette manière-là, sont, là aussi, hein, d'autres l'ont montré avant moi, pas forcément très efficaces. Par contre, d'autres types d'approches, comme elles sont faites par Sabrina et d'autres, si vous voulez, autour d'une expression libre et d'une possibilité de parler de son quotidien et de son ressenti, est quelque chose qui peut être plus efficace. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est la possibilité de la continuité. Parce que vous savez, là aussi, comme moi, hein, d'autres, là, encore une fois, l'ont bien montré, ce n'est pas une action ponctuelle, même la meilleure des meilleures, hein, qui va changer quelque chose. C'est en effet la possibilité de continuer. D'où, par exemple, des actions qui peuvent se faire dans des entreprises, où parfois il peut y avoir quelque chose qui se fait dans des entreprises. Alors là, on change un peu de sujet, mais simplement pour vous montrer que lorsqu'on peut faire un travail de fond dans une entreprise et que ça dure 10 ans ou 15 ans, on peut avoir un impact. Là, c'est plus compliqué dans l'éducation nationale, puisque par définition, on part et on change de classe, on change d'établissement. Lorsque nous pouvons éventuellement établir cette continuité, je pense que l'impact est plus grand auprès de certains. Pas ceux qui vont très mal, mais auprès d'une grande majorité, et c'est déjà pas mal.
Sur les lieux, il y a bien sûr le temps principal de l'adolescent et du jeune, c'est le milieu scolaire, le milieu lycée, collège, enseignement supérieur, mais il y a aussi les autres lieux de vie de la jeunesse. Et on réfléchissait hier avec des collègues élus sur les politiques de jeunesse aujourd'hui. On s'est posé la question, quels sont les lieux où les questions de santé sont abordées aussi à propos des jeunes, etc. Et moi, je cite toujours cet exemple-là parce que j'ai des responsabilités dans cette structure. C'est la mission locale d'insertion qui est un lieu d'accueil des 18-25 ans. Hein, plus de 3300 jeunes qui passent chaque année sur l'agglo de Poitiers, où un médecin généraliste tient des permanences, etc. Je crois qu'il faut être aussi force de proposition dans tous les lieux où peuvent se croiser la jeunesse, se rencontrer, etc. Pas simplement dans le milieu scolaire. Et chez les 18-25 ans, voilà, il y a des choses, des expressions très criantes qui se font dans la confidentialité du cabinet du médecin. Quand il fait son bilan annuel, on voit bien qu'il y a un mal-être qui s'exprime. Hein, ça tourne autour de l'alcool, de tout l'ensemble des toxicomanies, mais il n'y a pas que ça. Surtout quand on est entre 18 et 25 ans et qu'on se pose la question, mais quel sens je vais donner à ma vie, qu'est-ce que je fais, etc. Je ne dis pas que l'alcool est là. Et là, on boit parce qu'on n'a pas trouvé de sens. C'est pas de ça. Il faut pas non plus. Et puis, il y a aussi, je pense aux 8 maisons de quartier de Poitiers qui, il y a quelques années, n'abordaient pas ces questions-là dans leurs projets lorsqu'ils écrivaient leur contrat avec la ville et d'autres partenaires publics. Et aujourd'hui, aborde cette question de la santé des jeunes. Je vois Georges qui est là, avec les éducateurs de rue de la prévention spécialisée, de tout temps. Alors ça, ce n'est pas de phénomène d'aujourd'hui, de tous les rapports d'activité. Ça fait quand même un paquet d'années que je lis les rapports d'activité de la prévention spécialisée sur Poitiers. La question de la santé des jeunes est abordée. Donc c'est pas, il y a des réponses qui sont permanentes, comme vous le dites, et ce n'est pas des réponses ponctuelles qui sont apportées.
Je voulais dire un mot pour expliquer aussi la difficulté, parce qu'on peut lancer plein d'actions. On parlait de santé publique tout à l'heure. Les discours du champ de la santé publique ne sont pas les mêmes que le champ de la santé individuelle. Je sais bien qu'en France, on mélange un peu tout et qu'on n'a pas cette culture-là, mais lancer des actions collectives, c'est pas pareil que de s'adresser à des individualités qui ont des difficultés ou qui viendraient vers nous. Et il y a des risques à porter des discours de l'un à l'autre, même à renforcer les choses. Donc, une action collective, évidemment, et toi, tu le vis bien, et si Pat le connaît bien, une action collective, évidemment, il va ressortir d'une action collective quelques problèmes individuels. Il faut les traiter, mais ça se traite pas de la même manière. Ça s'aborde pas de la même manière, ça se conçoit pas de la même manière, et on risquerait à mélanger tout ça et à croire qu'en lançant des filets comme ça, on récupérait de la souffrance, on allait régler le problème des quelques élèves qui sont en difficulté au lycée, machin chose. Donc, c'est conceptuellement, il y a un peu d'anticipation, de réflexion à mener, parce qu'autrement, on va agir, on peut faire des actions. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas aussi facile qu'on le pense. C'est ce que je voulais.
Oui, merci de rappeler cette distinction fondamentale. Madame. Attendez, non, si, c'est mieux. Il y en a qui sont sourds ici.
On parle des collèges et des lycées, mais on ne parle pas du monde sportif, où là, je le dis, hein, parce que souvent, bon, moi je suis sportive, on voit ces jeunes, où là on fait la troisième mi-temps, et là je suis toujours surprise des plus en plus jeunes qui boivent de la bière, parce que souvent c'est de la bière qu'on vend dans, ou le verre de vin en milieu rural. Hein, moi je viens du milieu rural, et moi je suis toujours surprise qu'on fait de la prévention au collège, au lycée, mais pas dans le milieu sportif, où là, ça peut commencer pour certains, aussi bien chez les filles que chez les garçons.
Alors en fait, on a été contacté il y a 2 ans maintenant, peut-être 1 an et demi, par le CDOS, le Comité départemental olympique et sportif, qui regroupe différentes associations sportives. Et donc on a mis en place une séance d'information auprès des responsables de ces centres-là. Donc c'était une invitation du CDOS à faire une intervention sur l'alcool et sur l'alcool et réglementation aussi, parce qu'ils sont inquiétés par rapport à ça, et alcool et troisième mi-temps. Parmi leurs adhérents, il n'y a eu que très très peu de personnes qui se sont déplacées en fait. Donc on a fait une séance avec quelques personnes intéressées, mais les responsables de structure n'ont pas saisi la demande. Donc on a fait une séance et ça s'est arrêté là. Ah oui, certains, oui.
Alors c'est en effet très important de pouvoir peut-être agir de manière, alors reprendre un mot que j'ai entendu tout à l'heure, obligatoire, hein, sur la formation de ces encadrants. C'est-à-dire que lorsque ces éducateurs sportifs sont à l'école, on peut peut-être leur apprendre des choses. Voilà. Hein. Oui, mais enfin, quand on a des choses à apprendre et qu'on leur explique pourquoi on leur apprend, je ne suis pas persuadé qu'ils adhèrent pas. Voilà. Mais c'est pas forcément si simple que ça.
Non, je ne pense pas que ce soit si simple que ça. En plus, c'est généralement des gens qui sont investis, des bénévoles, qui passent énormément de temps.
Je parle des professionnels, moi. Ah, je ne parle que des professionnels. Ah, je parle des professionnels qui encadrent. Donc les éducateurs sportifs qui sont payés, dont c'est le métier. Voilà, je ne parle pas des bénévoles.
Je ne sais pas s'il y a eu des études, parce que en vous entendant, parce que ça, on connaît en effet, on le sait, on l'a tous vécu. Moi, j'ai fait du rugby, donc je peux vous dire que j'ai connu ces troisièmes mi-temps. Ma question qui me venait à l'esprit, c'est de savoir s'il avait été comparé le mode d'alcoolisation. Je ne sais pas, je vois moins, mais je n'en sais rien. Je vous pose une question. Est-ce que le binge drinking est un phénomène de troisième mi-temps, ou est-ce que c'est un mode d'alcoolisation différent? C'est la question que je poserai. Alors, je ne justifie pas les bitures après les matchs, mais me dis, on n'est peut-être pas tout à fait pareil.
Il y a eu quelques études qui ont essayé de voir les modes d'alcoolisation avec la pratique sportive, et effectivement, ça dépendait du sport. C'était plutôt un sport individuel, un sport de performance, un sport de loisir, un sport collectif, effectivement. Pas spécifiquement lié au binge drinking, mais en tout cas qui montrait la fréquence d'ivresse et les modes d'alcoolisation par rapport à la pratique sportive.
En tous les cas, c'est pas les soirées sportives, Poitvin ou les dimanches, après les événements sportifs sur lesquels on a interpellé sur les problèmes d'alcool. C'est pas du tout sur ces... Voilà. Et même les questions de bruit, parce que vous avez raison, docteur, on a parlé de l'alcool, mais autour du phénomène de l'alcool, c'est toutes les autres nuances, et notamment les nuisances sonores. Et aujourd'hui, le combat, entre guillemets, hein, de la ville, il est autant sur les nuisances sonores, il se porte aussi sur les nuisances sonores. Autant, c'est pas l'expression qui convient d'employer, mais c'est vrai.
Alors, d'autres remarques? Oui, alors ça c'est intéressant de passer la parole à Georges. Présentez-vous pour les quelques personnes qui ne vous connaissent pas. Mais... Oui.
Donc je m'appelle Georges, je suis éducateur de rue dans le quartier des Trois Cités à Poitiers depuis pas mal d'années maintenant. Donc je voulais faire un petit merci à Jean-Claude qui a parlé de nous là, en appuyant sur le travail qu'on fait depuis pas mal d'années. Mais moi, j'ai écouté ce matin la nouvelle ministre de la Santé, dont j'ai oublié le nom, là. Madame Touraine, qui était à BFM TV avec Jean-Jacques Bourdin ce matin. Et en me préparant, je l'ai écouté un petit peu. Elle faisait un tabac sur le tabac. Hein. C'est vrai qu'en ce moment, c'est l'augmentation du prix du tabac. Et elle pense qu'en augmentant le prix du tabac, les gens vont arrêter de fumer. Alors je me dis, tiens, pourquoi ils font pas ça sur l'alcool, hein. Bon. Parce que l'alcool, moi, ce qui me scandalise depuis toujours, c'est quand on va dans un bar, moi je vais dans un bar avec des jeunes, qu'on prenne une menthe à l'eau, qu'on prenne un demi, c'est le même prix, quoi. Et ça, comment ? Non, mais peu importe, pour le consommateur. Pour le consommateur, vous prenez une menthe à l'eau, vous prenez une bière, vous payez 2,50 €, quoi. Une menthe à l'eau, ça coûte rien. Et ça incite pas les jeunes à boire autre chose. Bon, et ça, c'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène qui perdure. Et moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi ? Quand on boit un verre d'eau dans un bar, ça nous coûte aussi cher qu'un verre de vin ou qu'un verre de bière. Et ça incite pas les jeunes à ne pas boire d'alcool, quoi. Voilà, c'était juste une petite remarque. Et par rapport au tabac, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a que les riches qui vont pouvoir fumer bientôt, donc, et qui vont pouvoir s'empoisonner, mais c'est peut-être pas une solution, quoi.
Il y a la contrebande, vous rassurez-vous.
Il y a la contrebande, l'Europe. Et puis des pays comme la Belgique ou le Luxembourg, qui sont des pays qui font partie de l'Europe, où le paquet de cigarettes est 2 € moins cher. Bon. Après, c'est complexe, quoi.
Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Questions ? Non, alors s'il n'y a pas de remarques ou de questions, non, messieurs, non, pas de regrets. Ah, voilà.
Un petit mot par rapport à l'évolution peut-être du débat depuis le début de la soirée. Il me semble qu'on est revenu, en termes de cette séance, à la question du problème majeur que les conduites posent, de l'intervention, de la prévention nécessaire. Et je voulais juste évoquer, j'ai pas parlé d'enjeux de connaissance parmi les enjeux que j'ai évoqués au début. Et il me semble qu'il y a encore aujourd'hui un enjeu de connaissance autour de ces questions, c'est-à-dire de mieux connaître la réalité, notamment quantitative, statistique, des consommations, et notamment des consommations à risque. Mais aussi, ça a été évoqué, la réalité, le sens de l'expérience des différents types de consommation, et notamment des consommations à risque. Ou à très fort risque, comme le binge drinking ou les consommations massives, etc. Il y a encore aujourd'hui un déficit de connaissances sur ces questions-là. C'est pourquoi, par rapport à la prévention, ce n'est pas non plus forcément évident. Alors on pourrait dire sans doute qu'il faudrait une articulation plus nette entre les domaines de la connaissance et puis les domaines de l'intervention. En tout cas, le sens de l'expérience, on en a encore à formuler des hypothèses par rapport à ce qui est véritablement vécu, recherché par certains des jeunes. Certains des jeunes, parce que je répète, ce qui préoccupe, ce qui fait l'objet, il a été question des projecteurs, etc., c'est toujours ces conduites les plus voyantes. Or, on oublie quand même que ce n'est pas seulement une majorité, c'est quand je disais tout à l'heure 96%, c'est plus qu'une majorité. Comment ces jeunes s'y prennent-ils pour éviter justement ces consommations à risque ou à fort risque ? C'est une question au moins aussi importante et intéressante. Comment s'y prennent-ils pour résister à l'attrait des produits, à la pression des pairs éventuellement, etc. Donc un enjeu de connaissance pour identifier mieux les facteurs qui interviennent bien sûr dans la prise de risque, et, mais aussi dans le fait que l'immense majorité des jeunes, effectivement, arrivent encore aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, à échapper à ces conduites à risque, et en tout cas à très fort risque. Ça, c'est une question intéressante aussi. On pourrait se demander aussi, d'ailleurs, si la focalisation sur les conduites à risque, sur l'éclairage au niveau du binge drinking, etc., peut-être, ça participe à la fois, d'ailleurs, à former le sens de l'expérience de ces conduites. C'est-à-dire que si on repère, semble-t-il, une certaine augmentation de ces pratiques qu'il ne faut pas nier, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une focalisation, il y a un consensus pour en faire des pratiques. Ça a été mis en lumière par rapport aux incendies de voitures, par exemple. La focalisation au moment de certains événements sociaux sur les incendies, sur les voitures auxquelles on met le feu, etc. Ça, voilà, les jeunes ne sont pas bêtes. Ça participe aussi à la construction de ce problème-là. Mais peut-être que ça participe aussi au fait que la grande majorité, finalement, malgré tout, semble se méfier beaucoup de ce genre de pratiques qui peuvent mettre en évidence une connaissance moyenne des risques encourus, mais n'empêche qu'ils semblent parvenir souvent à se protéger, entre guillemets, ou à se prémunir de ces trop fortes consommations. Comment s'y prennent-ils ? Comment ? C'est pas forcément évident. On peut se demander aussi comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de jeunes qui se livrent à des comportements. On peut se demander aussi dans notre société aujourd'hui, étant donné la place qui est celle de la jeunesse, le regard qui est porté socialement, politiquement aussi, par une certaine politique sur les jeunes aujourd'hui. Alors, il ne faut pas banaliser, vous disiez, bon, voilà, mais la jeunesse aujourd'hui est-elle pas au moins en partie diabolisée aussi par rapport à ce type de comportement, notamment, et beaucoup d'autres. Voilà, donc c'est un peu hétéroclite, pardon.
Non, pas du tout. Bien, ben nous avançons vers 22h30, donc l'heure de nous quitter. Je vous remercie beaucoup, j'espère que cette soirée vous a plu, ça vous permet de peut-être de réfléchir à d'autres sujets, de les approfondir, et éventuellement de nous recontacter. Donc je vous souhaite une bonne soirée, et à une prochaine fois. Au revoir.